tous et bienvenue dans l'épisode numéro 4 quand les podcasts. Aujourd'hui, épisode animé, non pas par une, ça serait bizarre, mais toujours par deux avec mon compère Titix.
Salut Mary.
Mais cette fois, non pas par deux, mais par trois avec notre compère Scintillant.
Yo.
Et par quatre
avec Bienvenue, salut.
Salut. Alors on a trois micros pour quatre personnes, donc du coup parfois ça sera un peu bancal, on s'excuse d'avance, mais l'intérêt c'est qu'on est nombreux et il y aura débat à sujet. Alors la première partie, tout de suite, Titix, qu'est-ce que c'est?
On va causer un peu JRPG. Hein.
Jeu de rôle japonais.
Merci d'avoir traduit, mais... et tiens, pourquoi ne pas commencer une seconde, je te prends en traître. On a eu trois news hardware ces derniers temps, avec une nouvelle Xbox, avec une nouvelle PS5 potentielle et une nouvelle DS. Alors, en 3 secondes, vous en pensez quoi? Alors, quand j'ai 3 secondes, c'est super, ouais, ou OZEF. Hein.
OZEF.
Ouais, j'attends de voir. J'attends pas la PS5, quoi, la nouvelle DS, elle a l'air cool, mais je m'en fous.
Moi, je trouve que la nouvelle DS, elle a l'air cool, mais je l'achèterai jamais, donc OZEF.
Donc voilà, c'est cool, on est tous le même avis hardware, on s'en fout complètement. C'est
quand même très curieux pour la PS5, hein. Personnellement je serais vraiment très très curieux de voir s'ils vont dégainer aussi vite. Je pense pas que ça sortira en 2018, mais je serais curieux de voir.
Mais surtout qu'ils viennent de mettre la PS4 Pro, qui est compliquée déjà à trouver, elle est même pas trouvable encore partout, donc...
Les gens sont pas au courant, j'ai beaucoup de personnes de mon entourage qui savent même pas que ça existe.
Non, le packaging est très mauvais, l'extérieur tu comprends pas que c'est une autre PS4 déjà, ils auraient dû changer une couleur, il y a un problème de code couleur.
C'est juste pour faire un peu peur à Microsoft, hein. C'est tout.
Mais ce qui est incroyable, c'est que du coup les premières Xbox S, c'est ça?
Non, les premières c'était la Xbox One normale, puis il y a eu la S.
Ok, mais maintenant les S sont à moins de 200 balles, quoi.
Avec un jeu. Et c'est un très très bon lecteur Blu-ray 4K. Ouais. J'ai des amis qui m'en ont offert une pour mon anniversaire, que je remercie chaleureusement. Et c'est un très bon Media Center.
Revenons au JRPG, première partie. Comme on a dit, on va parler un petit peu de nos tops du moment. Bah, du moment ou pas du moment, hein, les jeux qui nous ont marqué. Un petit peu l'évolution, ce qui nous plaît, ce qui nous déplaît. Est-ce que le JRPG a encore une place aujourd'hui? On fera l'interlude avec Baven. Baven, qu'est-ce que tu vas nous parler brièvement pendant cet interlude?
Il va nous faire une chanson.
Je vais vous parler encore d'un jeu indé, très relaxant. Ce sera l'occasion de faire une petite pause après votre débat sur le JRPG.
Et ça s'appelle En 2-2. Et on va continuer avec les tests Day One, débat qui fait fureur dans l'équipe, puisque certaines personnes sont pour avoir des tests qui sortent le premier jour, d'autres sont plutôt pour prendre leur temps et sortir un test finalement une ou deux semaines après, mais peut-être plus complet, peut-être, je ne sais pas, on va en parler. Bref, on a tous notre propre avis, vous êtes sur Quand les podcasts, épisode numéro 4, action. Titix, je te laisse ouvrir cette première partie sur les JRPG, c'est à toi.
Alors j'étais assez surpris d'apprendre que t'étais pas très fan, toi, de JRPG, ça m'a surpris.
Alors c'est pas que je suis pas très fan, c'est que en fait j'ai changé mon comportement de joueur, c'est que le JRPG est un jeu chronophage qui demande un investissement énorme, et aujourd'hui malheureusement je ne l'ai plus. Ce qui fait que ce n'est pas des jeux qui me déplaisent, mais ce sont des jeux auxquels je ne peux plus consacrer autant de temps. Et en fait, tous les jeux actuellement à base de farming sont dans ma tête égal perte de temps. Donc je déteste les jeux à farming parce que ça me fait chier, parce que j'ai pas le temps.
C'est marrant que tu parles de ça, parce que justement j'ai l'impression que le JRPG évolue vers quelque chose de moins en moins farming, justement. Toi, notamment, je pense par exemple à FF15, qui tu peux faire vraiment tout le jeu en ligne droite sans farmer. À Persona 5 qu'on est en train de faire, je trouve personnellement, je suis au début, mais que c'est un jeu qui va très vite, qui est très rapide, qui, bon ok, le jeu sera long, mais tu peux vraiment jouer, et c'est comme ça que je le savoure personnellement, j'ai envie d'y jouer une heure par jour.
Mais c'est bien, c'est une petite routine, parce que...
et j'ai l'impression que ça instaure vraiment, il y a une différence, c'est vraiment de moins en repensant un petit peu en préparant l'émission, je trouve justement que t'as de moins en moins cette notion de perte de temps, tout est fait pour aller vite, Persona 5, notamment les combats, mais vont super vite, tu vois, t'appuies sur R1, t'as automatiquement le truc qui défile, enfin c'est assez fou.
Moi je suis en mode automatique sur la plupart des combats, ouais, c'est 10 secondes de combat et puis c'est tout.
Et je pense que c'est très très cool, parce que vous me remontez le moral, parce que ça fait longtemps que j'ai lâché justement les JRPG pour ce côté... pompeux et chiant.
Ça fait déjà quelques années qu'il y a ça, et j'ai remarqué notamment un qui m'a marqué énormément, et je parle déjà dans autre chose, mais Bravely Default, je sais pas si vous l'avez fait sur 3DS,
non,
il y avait
3DS,
un système
ouais.
de combat totalement dingue, où tu pouvais acheter un petit peu à crédit des attaques, et tu pouvais même accélérer les combats genre x4 en vitesse, et ça allait super vite, donc du coup tu pouvais, là il y avait un peu de farming, mais c'était pas très contraignant, parce que tu pouvais aller super vite, tu mettais la vitesse du jeu x4, tu mettais les trucs en automatique, et c'était parti. Donc j'ai l'impression que bah, tout le monde, hein, c'est un peu une tendance générale, et les développeurs en ont conscience que bah, voilà, t'as pas le temps, et si ça te demande trop d'investissement, ça va être une barrière à l'entrée beaucoup, beaucoup trop freinante.
Oui, c'est ça, en fait, on se rend compte que les jeux où tu farmes beaucoup moins maintenant que dans un FF7. Hein, je sais pas, tout le monde a fait ici plus ou moins, on a tous farmé avant le volcan, FF6 pareil, où il y avait toujours ce barrage du boss trop fort et...
Ouais, il fait fuite aussi, c'était chiant pour ça. Oh là là.
Mais là, moi j'adorais farmer, c'est vraiment des trucs.
Ouais.
J'ai toujours
non, moi aussi, c'est ça que j'étais en train d'essayer de vous expliquer. C'est que j'aimais vraiment ces jeux, sauf qu'aujourd'hui j'ai plus le temps, justement. Passer 10 heures à farmer pour battre un boss, c'était cool, mais maintenant c'est vraiment une question de temps. C'est que je n'ai plus le temps de faire ça.
Mais ça dépend où est ton intérêt aussi. Maintenant, bah, si on reprend l'exemple de Persona 5, t'as même un mode facile, en gros. Donc tu profites de l'histoire, du système, mais les combats ne sont plus extrêmement durs.
Ouais, mais ce qui est chiant, c'est qu'ils appellent ça mode facile. Ils devraient appeler ça mode rapide.
Ça te met la honte, c'est
ça. Ça, oui, ça te met la honte. J'ai l'impression que je suis une grosse tapette, quoi. Je peux plus jouer au jeu, là.
Non, mais franchement, je pense que c'est quelque chose qui est derrière.
Je suis désolé pour mes amis gays, ça n'a rien à voir.
Les jeux où tu dois farmer, je pense à part les MMO, et même les MMO maintenant, c'est plus du tout ça. C'est vraiment quelque chose de révolu.
On est d'accord. Mais ben... D'ailleurs, oui, si tu regardes maintenant, par exemple, le système de farming de World of Warcraft, où tu arrives directement au niveau 50 maintenant, c'est possible, je crois.
Oui, c'est ça. Warcraft, j'ai pas pratiqué beaucoup.
Moi non plus,
mais
j'ai pas joué.
T'as des boosters de personnages comme ça, quand t'achètes les nouvelles extensions, t'as automatiquement un perso niveau 100 pour profiter du nouveau contenu directement. Les gens savent que t'as plus le temps de re-roll ou de recommencer un perso à zéro et que t'as envie directement de rentrer dans l'histoire et voir les nouveautés.
Tout à fait. Mais bon, là, on parle pas JRPG, donc il faut peut-être qu'on revienne quand même à des jeux non pas américains, mais bien japonais. Et donc, tu avais l'idée, Titix, peut-être de voir un petit peu les jeux qui nous ont marqués. Peut-être que justement, on pourra en discuter, puis voir un petit peu les différentes disparités qu'on peut avoir, ou au contraire, les coups de cœur. Donc, je te laisse commencer, ou peut-être Saint-Ilian, ou peut-être Baven, je sais pas. Baven, toi qui es complètement étranger par rapport au JRPG, quelle est ton image? C'est intéressant de savoir ça. Pourquoi tu joues pas à ces jeux?
Je pense que déjà c'est du fait que j'ai eu très peu de consoles quand j'étais petit, et j'ai commencé par la NES, et c'était, enfin, j'ai pas eu de JRPG dessus. Après, j'ai des potes qui m'ont pas mal vendu Final Fantasy, et notamment le 8, qui est le premier que j'ai fait, enfin que j'ai commencé. Et ouais, c'est ce côté chronophage qui m'a pas trop plu. Il y a un côté où t'arrives devant un boss que t'arrives pas à battre, et donc du coup ça veut dire qu'il faut revenir en arrière et farmer, et ça c'est un truc qui m'a vachement bloqué. Et après, moi c'est une esthétique qui me parle pas du tout. Il y a des trucs qui me font envie, par exemple Persona 5... Qui vient de sortir, là, je sais que sur mon fil Twitter, je le vois passer tout le temps, et l'histoire a l'air super cool, mais je sais que même si je commence à y jouer, au bout de quelques heures, le truc va retomber, et je vais jamais revenir dessus, mais même pas en me disant que ça va durer trop longtemps, c'est juste que je vais pas y jouer pendant deux jours, et en fait je vais plus y jouer du tout, en fait. J'arrive vraiment pas à rentrer dedans, les trucs comme ça. C'est pas mon univers, quoi.
Et est-ce que c'est esthétiquement, est-ce que ça te déplaît également? Est-ce qu'il y a un rapport avec l'esthétique, avec ces jeux, par rapport aux jeux américains que tu peux par exemple jouer, comme tu es un grand fan de GTA? Je fais vraiment une comparaison débile. Bouh. Mais est-ce que ça joue pour toi?
Oui et non, l'esthétique manga me parle pas trop, mais après je sais qu'il y a des trucs que je trouve jolis. Saint-Yon parlait de Bravely Default, et je sais que quand le jeu est sorti, je l'avais trouvé vraiment beau. Mais c'est clair que c'est pas un truc, c'est pas un truc qui va me rebuter, ça me parle pas spécialement, mais quand il y a des trucs beaux, je les trouve beaux et ça me donne envie de jouer, même si je sais que j'y jouerai jamais.
Après, tu parlais d'effet fuite, c'est quand même, enfin, j'adore Final Fantasy VIII, c'est vraiment partie de mes jeux préférés, mais si t'as ça comme point de repère avec le chara-design de Nomura, le truc emo bullshit, avec les persos qui sont horribles, c'est peut-être pas non plus le meilleur point d'entrée, je trouve. En tout cas, surtout actuellement. À l'époque, peut-être tu trouvais ça un peu cool, c'est un peu rebelle, mais avec le recul, le chara-design des persos du 8, pour moi, mais dégueulasse. Voilà, c'est dit.
Ouais, bah en plus, d'après ce que j'ai compris, FF8, c'est un peu le mal-aimé de la série, en tout cas après le 7 et le 6, j'ai l'impression qu'il a une...
Moi, non, enfin, je pense que non, il résonne. Dans... Enfin, ouais, c'est peut-être parce que j'ai le recul et que t'as eu le 13 après, puis Lightning Returns, et puis tous ceux qui ne font que de tomber dans la vis. Donc pour moi, le 8 reste quand même quelque chose d'assez, d'assez incroyable. Mais c'est le chara-design de Nomura avec tous ces persos émo que j'ai pas apprécié.
Ce qu'ils ont reproché au 8 principalement, c'est de trop rentrer dans la romance et perso un peu autiste qui parle jamais mais qui est trop badass quand même.
Ouais, c'est une histoire d'amour entre des teenagers, donc c'est ça qui est un peu particulier aussi.
Mais l'histoire était quand même complètement folle, hein, mine de rien.
Non, moi j'adore. Et moi, pour moi, on rentre directement dedans, mais les trois, le triptyque béni sur PlayStation, pour moi, c'est quelque chose qu'on refera plus jamais. C'était une expérience totalement dingue. Bref.
Tu les as fait, toi pour...
Non.
FF7, 8, 9, non ?
Non. J'ai fait 8, mais j'ai pas fini. 7, j'ai essayé de commencer parce qu'en fait, j'ai pas connu le 7 à l'époque. Et comme c'est un jeu qui a énormément de fanbase énorme, et puis bon, tout le monde en parle, c'est une référence, j'ai essayé de m'y mettre. Et j'ai trouvé ça vraiment très compliqué à rentrer dedans. Et j'ai pas accroché du tout. Donc du coup non. 9, c'est celui qui m'attire le plus, mais pareil, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer parce que j'ai pas connu cette époque en fait du jeu vidéo sur PlayStation, ce qui fait que moi j'étais sur PC à l'époque et donc du coup j'ai pas vraiment joué à la PlayStation de manière
intensive.
Merci. Et donc du coup voilà, j'ai un peu loupé le coche sur ces jeux, mais d'un point de vue extérieur, donc le 8, j'ai beaucoup joué, mais j'avais jamais fini parce que j'étais pas assez farmé pour le boss. Et donc, après le 10 essais, j'ai dit stop. Et puis le 9 m'attire beaucoup, graphiquement en tout cas, c'est très beau.
Et le 9, d'ailleurs, je pense que Sakaguchi a dit que c'était vraiment celui qui se représentait pour lui, c'était vraiment le plus. Le Final Fantasy ultime. Voilà,
c'est
pour
très
lui,
très
c'est
joli,
vraiment,
je trouve.
C'est celui-là, le Final Fantasy, qui représente vraiment le mieux l'essence même de la série.
Après, c'est purement subjectif parce que si vous voulez, moi j'aime bien le côté cartoon en fait, si vous voulez. Donc c'est pour ça que le 9 me plaît beaucoup et que le 15 par exemple me rebute à jouer. J'aime bien ce côté assumé fantasy médiévale japonais où tout est un peu cartoonesque comme ça. Sans être chibi, mais un côté dessin animé. Pour moi, c'est le vrai Disney japonais, on va dire.
Bref, si on en venait à ce fameux top 3, sinon on ne va jamais avancer, je crois.
On fait un top, si tu veux, finalement.
Mais c'est pas ça qu'on voulait faire, je ne sais plus.
C'est intéressant, je pense, de parler des jeux qui vous ont marqué. Je te laisse commencer, Titix, parle-nous de... Commence par le... Il y a un ordre ou il n'y a pas d'ordre ?
Ben on peut faire par ordre, mais on en fait combien ? 3, 5 ?
Moi, j'étais parti sur 3. Mais...
Ouais, okay. Moi, j'en ai pris 3, mais j'ai pas d'ordre. C'est compliqué de leur donner un ordre.
Je me suis creusé la tête.
Bon, alors, je vous laisse commencer et pendant ce temps, je vais chercher un ordre, alors.
Bah, commençons par le 3, alors, on va remonter. Titix. En 3, je mettrais Final Fantasy X. Ouf. En fait, ouais. Pour son histoire et surtout son système de combat qui pour moi était le dernier vrai système de combat de Final Fantasy au tour par tour. Je sais que ça fait chier beaucoup de monde, mais c'est un système que j'apprécie vraiment. On a vraiment le temps de réfléchir à ce qu'on va faire, avoir les tours des boss, de préparer des stratégies, surtout avec les boss annexes qu'on a vers la fin,
qui sont très très chauds,
qui sont extrêmement durs et où parfois il faut quand même beaucoup de bol pour arriver à survivre, voire prévoir le coup qu'on va crever pour lancer un sort de résurrection à l'avance, enfin, ce genre de choses, qui est plus possible maintenant, donc avec tout ce qui est FF12, 13...
Ouais, même le 15, c'est même plus possible de mourir. Quasiment, je pense que la seule fois où je suis mort, c'est en me crachant avec la voiture.
Tu sais que... Non, putain. tu sais que le 15, mais à chaque fois que tu m'en parles, ça me fait vraiment, vraiment pas envie, quoi.
En fait, le 15, on va encore partir sur autre chose, mais le 15, je l'ai adoré, mais c'est pour le road trip entre potes. C'est vraiment l'histoire, je m'en foutais, mais c'est vraiment l'histoire, la bromance entre les protagonistes, et vraiment l'histoire puissante que tu vis entre eux, le road trip, le fait que tu partes camper, tout ce qui se passe pendant ces moments-là d'intimité entre eux, c'est vraiment le truc qui m'a séduit. Après, le reste, l'histoire, les combats, l'univers, bof, c'est vraiment tout le fait de se balader, de parcourir, de camper avec tes potes, c'est vraiment le truc qui m'a vraiment scotché.
L'impression que j'en ai d'ici, c'est que j'ai l'impression que tes personnages, ce sont les héros, mais qui passent complètement à côté
de l'histoire,
des événements. Quoi.
Ouais, c'est ça, clairement.
C'est du genre, machin, sont partis faire du camping pendant qu'il y a la guerre dans leur royaume.
Ça a toujours été un peu ça. Le 7, tu poursuis Sephiroth, et puis finalement, tu prends quand même le temps d'aller au casino, d'aller élever tes chocobos, d'aller, tu vois. Donc moi, ça me sort pas spécialement l'histoire pour autant. Mais c'est... Voilà.
il y a une chose que je suis désolé de couper le top, mais qu'est-ce qui définit en fait le JRPG selon vous? Je crois que ça serait important de pouvoir le définir, parce que qu'est-ce qui fait que c'est un JRPG, et est-ce qu'un action RPG japonais est un JRPG?
Ouch.
Oui, pour moi un action RPG peut être un JRPG. Le JRPG, je verrais ça comme personnellement, c'est toujours une espèce d'incitation à un voyage, tu vois. Tu vas dans un univers, tu voyages, t'as une histoire, peu importe que tu sois vraiment central dans l'histoire, parce qu'il y a des... pour moi il y en a où t'es pas vraiment le héros, t'es plutôt un peu spectateur, c'est vraiment découvrir un univers, vraiment découvrir un monde, découvrir les codes qui régissent cet univers, et peu importe, j'ai envie de dire, le système de combat, du moment que t'as toujours la composante RPG avec gérer ton matos, avec gérer... Vraiment c'est ça que... Vraiment c'est une invitation, une ode à un voyage. Pour moi c'est vraiment comme ça que je le ressens, le JRPG. Mais dans mes tripes, hein, c'est pas une définition.
Et en termes de... Pardon, excuse-moi, je te coupe.
Non, du tout, j'étais en train de me demander ce qui différenciait ça d'un jeu comme Mass Effect, par exemple, qui a des grosses composantes RPG aussi.
T'es plus libre, je pense, dans les trucs, dans les RPG occidentaux, t'es plus libre, en fait. T'es moins tenu par l'histoire. Enfin, pour moi, hein, je pense que t'es moins tenu par l'histoire. T'es beaucoup, par exemple, toi, un Morrowind, un Mass Effect, t'as plus d'impact, c'est toi qui vas prendre des décisions. Tandis que dans un JRPG, t'es quand même beaucoup plus pris par la main. T'es comme dans un film, en fait. T'es vraiment,
c'est vrai.
On t'emmène, tu vas d'un point A, puis tu vas au point B, puis tu vas au point C. Et c'est une espèce de course, comme ça.
C'est ce qu'on leur reproche beaucoup, d'ailleurs, dans les anciens tests, on va dire ça comme ça, ou pour le style, sont des jeux justement très linéaires. D'ailleurs, ils essayent d'en sortir depuis longtemps, mais sans vraiment trop y arriver, mine de rien.
C'est ça que j'aime, mettre plus par la main, qu'on me dise voilà, va faire ci.
C'est peut-être même ce qui définit plus le JRPG, c'est peut-être vraiment sur des rails presque, et de suivre une histoire épique.
Avec ce côté farming, moi je trouve quand même.
Ah, de moins en moins, encore une
de
fois.
De moins en moins. Et ce que j'aime aussi, c'est l'abondance de choses à faire sur le côté généralement. Dans vraiment les bons, t'as plein de petits à côté qui sont inutiles, mais qui sont quand même toujours là pour servir l'histoire.
Oui, et puis qui renforcent peut-être la mythologie de l'univers, la mythologie du jeu, les
courses de chocobo.
Oui. C'est dans le détail, de toute manière, que le monde se crée. Et je crois que ces quêtes annexes sont souvent importantes, justement, pour le joueur. Ok, donc c'est clair pour moi, en tant que noob du JRPG. Vous avez répondu à ma question. Alors, pardon, je vous ai coupé dans votre top. Après FF10, Titix, qu'est-ce que c'était?
En deuxième, je mettrais, j'en parlais souvent, hein, Persona 4 Golden. Donc la version Vita de Persona 4, parce que... j'ai pas fini le 5, donc pour moi il n'est pas encore dans un top quelconque, et je trouve trop fouillis que pour être mieux que le 4 encore. Pourquoi je le placerai dedans? Parce qu'il est juste passionnant de bout en bout, et c'est vraiment le jeu que tu peux bouffer une heure par-ci, une heure par-là, dans les transports en plus, enfin vraiment où t'as envie, avec des personnages très attachants. D'ailleurs ils ont ouvert cet univers au jeu de combat, au jeu de danse, enfin ils ont bien...
Vraiment très bien, Persona Dancing Online, on en parlait tout à l'heure, j'ai adoré.
Ouais, ils ont bien aussi compris que ça rapportait du pognon, hein, mine de rien. Le côté animation, enfin, avec
c'est
les scènes...
Jeune, c'est très très jeune.
Voilà, t'as vraiment l'impression d'être dans une série, avec tout le côté jour après jour, et amélioration des relations avec les personnages, tout ça. Et en premier, là, je sais pas si vous connaissez, il s'agit de Shadow Hearts Covenant.
Non, je connais pas.
Quelque... C'est pas... C'était pas sorti sur PS2.
Si. Ouais. C'est un jeu que j'ai découvert complètement par hasard chez un cache. Hein. Je savais plus trop quoi jouer et j'ai trouvé ça. C'est une suite, hein, donc de Shadow Hearts, promis du nom. C'est pas très beau, mais ça se passe en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais une Europe un peu fantasmée, on va dire ça comme ça, par les Japonais, où on contrôle un mec qui peut se transformer en différents démons, qui est accompagné par une Allemande qui se bat à la rapière, par un prêtre japonais, par une petite fille russe qui prend des photos, par un vampire qui fait du catch. Bref, ça part dans tous les sens. C'est étrangement très sombre, ça se rapproche un peu de Persona, enfin des premiers en termes d'ambiance, hein, c'est des démons, etc. C'est plus ou moins le seul jeu où tu peux tailler une bavette et te foutre de la gueule du point de sauvegarde qui va te répondre. Et je pense que c'est le meilleur boss de fin également du JRPG. C'est un boss qui est puissant, que t'as envie de comprendre, et que t'as pas spécialement envie de tuer non plus. Bref, voilà, pour moi, si vous n'avez pas fait, c'est, je pense, un des tout meilleurs JRPG de
ces dernières années. Le scénario est prenant?
Ouais, très, franchement. Sombre. c'est une suite, donc clairement, si t'as pas fait le premier, ce qui était mon cas, à ce moment-là, bah, tu te construis un peu ton histoire du premier, mais c'est pas tellement gênant. Et il y a tellement de enfin, tu parlais de bromance tout à l'heure, bah, y a une relation entre les personnages qui se crée aussi, qui est vraiment très, très forte, ça part un peu dans tous les sens. Donc ça, si vous l'avez pas...
C'est ça un peu le JRPG, je trouve, ce côté où tu deviens presque leur pote, tu vois. T'es un peu dans leur cercle de vie, d'amis, de vie quotidienne, et c'est peut-être finalement ça le JRPG.
FF15, ça, pour moi, c'était vraiment ça. Dans les feux de camp, c'est vraiment le cinquième,
ouais, c'est
le cinquième manque du groupe. C'est vraiment ça.
T'es avec eux, quoi. N'hésitez pas, donc ceux qui nous écoutent, on mettra bien sûr sur l'article du podcast, on vous mettra des petites vidéos, des petites photos de tous ces jeux pour que vous puissiez également les découvrir et puis peut-être pouvoir les acheter ou télécharger l'ISO comme des gros pirates.
Il y a prescription pour certains quand même.
Qu'est-ce que tu nous as préparé, Saint-Tillon? Alors, je vais peut-être dire moi en premier parce que c'est plus simple. Okay, et puis, comme moi je suis moins dans le délire JRPG, je vais pouvoir peut-être aller plus vite et on finira par des choses plus extraordinaires pour toi.
Wow, pas spécialement, vous allez voir.
Bah, moi j'ai préparé un top 10, alors c'est super compliqué. Alors je pense, en troisième, je dirais Grandia 2 sur Dreamcast, que j'ai adoré. Incroyable. Parce que c'était la première fois que j'avais vu que je jouais à un JRPG avec un système de combat. Je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça.
Où t'as une barre. Très particulier, tu peux faire reculer, voilà, comme ça les ennemis. Ouais.
Alors c'est drôle parce que dans Dragon Ball Fusion, qui vient de sortir sur 3DS il y a pas longtemps, là, ils avaient repris ce système où je sais pas comment vous dire, mais vous avez un système de tour par tour, mais avec.
Progression en temps réel.
Progression
barre,
en temps réel. Ouais. Je sais pas comment on décrit ça.
C'est un combat qui a été repris d'ailleurs dans d'autres jeux.
Dans Child of Light.
Ouais. C'était un RPG très sympa et je m'étais beaucoup amusé dessus. À l'époque sur Dreamcast, c'était. En deuxième, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune parce qu'on y jouait à deux avec mon frère. C'est Secret of Mana sur Super Nintendo. C'est un action RPG, JRPG,
ouais, c'est ça.
Avec une histoire vraiment passionnante et un système de combat non pas en tour par tour mais vraiment en temps réel, un peu à la Zelda pour ceux qui connaissent, et pareil, une histoire passionnante, des personnages attachants, on peut même jouer à 3 à ce jeu, pour ceux qui avaient le multitap à l'époque.
Le vol à d'autres dragons là, sur la world map, hein.
Non,
c'est juste incroyable.
Avec le mode 7 de la Super Nintendo qui pixelisait tout, mais c'était vraiment vraiment un jeu magnifique. Et alors, mon numéro 1, c'est sur 3DS, c'est le JRPG auquel j'ai le plus joué, c'est imprononçable, ça s'appelle Suikoden Tyrkris, j'arriverai jamais à lire ça. T-I-E-R-K-R-E-I-S. Tyrkris.
Les noms des JRPG quand même.
Et c'est mon premier Suikoden, donc il en est sorti une chier sur PlayStation. Je crois qu'il y en a eu 2 sur PlayStation 1, puis 5 jusqu'au 5e sur PS2. C'est des jeux, je sais pas s'il y en a, il existe encore, je sais pas si ça sort encore.
Non,
je crois
la licence pour l'instant est au point mort. Ils sont sortis sur PS Vita il y a pas longtemps, le 1 et le 2. Ouais.
Et sur.
Le 3 aussi sur PS2, enfin sur PS3 est téléchargeable maintenant.
En tout cas, voilà, sur 3DS, vous voyez, on parlait de ce côté quête annexe, monde qui vous appartient au bout d'un moment. J'ai dû passer entre 70 et 80 heures à me régaler dans l'univers de ce jeu où il y a une vraie mythologie. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est mystère, secret et découverte. Et là, c'était vraiment très, très cool dans l'exploration du jeu et dans la compréhension du monde qui nous entoure. Et je ne peux que vous le recommander.
C'est marrant parce qu'on revient de loin au niveau en JRPG quand même. On parle de vieux trucs, mine de rien. Mais
ouais. Bah moi, dans
vous
le
n'avez pas à m'en sortir un sur PS3?
Non, PS3 pour moi c'était vraiment la période où le Japon était vraiment au plus bas niveau créativité. Pour moi ils ont vraiment foiré. Il y a vraiment eu un creux à cette période-là. Quand tu viens vraiment PS1 pour moi c'était l'âge d'or, PS2 un peu moins, et PS3 ils sont totalement ramassés.
En PS2 t'as quand même eu des JRPG.
PS2 oui, mais PS3 sur le déclin.
Les Wild Arms par exemple, t'as pas. Bon, bonjour le chat.
On a un chat sur la table. Moi sur PS4, le dernier que j'ai fait, c'est le JRPG qui découle de la série Sword Art Online. La version Hello, je sais plus comment c'est le titre.
Peut-être réalisation. Long, ça.
Et ça, c'est très très cool. J'ai beaucoup aimé. Mais par contre, j'ai jamais fini parce que, encore une fois, le jeu est hyper semblable de niveau en niveau. et c'est tout le temps la même chose.
Ils avaient essayé un peu même genre en Dot Hack, vous vous souvenez de ça?
Ouais, l'espèce de MMORPG offline.
Ouais, sur PS2, ils avaient sorti un truc transmédia. Attention, le chat marche sur le clavier.
Ouais, c'est bon, on est toujours là.
Où ils simulaient un MMORPG, en fait, sur PlayStation 2. Donc, et en même temps, ils sortaient un manga, ils sortaient une série animée.
Ouais, ça me dit
et tout,
enfin,
rien ne racontait la même histoire, sauf... Hein, Ça se passait avec le même univers. C'était pourri hein, sur PlayStation 2, franchement.
C'était pourri, mais l'univers était attachant.
Voilà, ils ont vendu quand même 4 fois le jeu en 4 parties. Mais c'est sans progrès graphique, sans rien du tout. C'était vraiment 4 fois le même jeu avec juste une histoire différente.
C'était pas beau du tout.
Non, c'était moche. C'était un peu chiant à jouer. Les donjons étaient moches. Enfin, toujours les mêmes, mais bon, bref. Quand tu me parles de
non,
SAO.
Pas... Voilà, je voulais. Voilà. Mon top est vieux et. Et tout ça, malheureusement, voilà, encore une fois, je vous dis, je m'investis très très peu dans les jeux japonais JRPG comme ceci. J'aurais pu citer peut-être Shenmue en numéro 1, mais je sais pas si on peut dire que c'est un JRPG, vous voyez, c'est pour ça que
difficile.
Je vous ai posé la question.
C'est pas un truc plutôt à la Yakuza ou
genre. Il y a quand même des composantes à RPG.
Il y a des composantes, mais...
Aventure qu'RPG, peut-être.
Oui, voilà, c'est pour ça que je l'ai pas cité, mais moi je suis plus jeu d'aventure, jeu d'action et petit jeu que JRPG, donc voilà.
Personne pour me citer Uncharted Arms sur PS 360
Ouf. Oh non, c'était dégueulasse ce truc.
Je sais, c'était mon premier jeu sur PlayStation 3. Hein. Confiant que j'étais. Ouais, je sais. Mon dieu, qu'est-ce que c'était affreux.
Alors, je laisse la parole à Saint-Yan pour la suite.
Ok, bah c'est marrant justement que tu parlais de Suikoden pour, dans ton numéro 1, parce que mon troisième auquel j'avais pensé était Suikoden 2 sur PlayStation 1 que j'avais vraiment, vraiment surkiffé. C'est. S'il fallait le décrire, ce serait Game of Thrones qui rencontre Pokémon. C'est un peu ça. Tu pars. L'histoire est assez simple hein, de base. Tu t'es un jeune gaillard et tu essayes de rejoindre ta patrie. Et il se passe vraiment plein de choses. T'as vraiment plein de moments où tu te dis mais non, ils l'ont fait, c'est pas possible. Vraiment des retournements de situation totalement incroyables. Vraiment, ça enchaîne révélation sur révélation. Des trucs, tu te dis mais non, c'est pas possible. Donc c'était totalement dingue. Il y avait aussi le système de combat qui était vraiment très cool. Donc tu avais jusqu'à 6 personnages.
Oui, comme dans le 5 d'ailleurs.
Et tu pouvais aussi donc jusqu'à 6 personnages. Puis tu avais aussi les séquences de baston de manière un peu plus stratégique avec tes troupes. Et tu avais aussi des duels en contrant certains boss assez importants. Donc c'était vraiment ton personnage contre un autre personnage. Donc voilà, pour moi, Suikoden 2 était vraiment une claque mais énormissime. J'ai adoré ce jeu. Et j'ai joué de nombreux.
Moi qui n'ai jamais joué à Suikoden 2, il paraît qu'il y avait un nombre de personnages hallucinants.
Ah ouais, des centaines,
c'est 108, hein, c'est la marotte de la série, t'as 108
persos.
Ah oui,
d'accord, persos. À chaque fois. Parce que sur 3DS, c'est pareil.
C'est Pokémon qui rencontre Game of Thrones. Quoi.
Ah, mais j'ai des 3DS, mais je me trompe, c'était sur DS.
Non,
le mien.
C'est DS, ouais.
Excusez-moi. Donc Suikoden 2. Ça me donne envie d'y jouer, n'empêche, ça a l'air trop bien.
Ah, il est fabuleux.
Ouais.
Alors le deuxième, numéro 2, alors là vous parlez de jeux justement chronophages, je pense que c'est le RPG sur lequel j'ai passé le plus de temps dans ma vie, et que si je devais le refaire, je pense que je le referai pas, c'est Dragon Quest 7. Je veux dire, à l'époque quand j'ai joué, c'était Dragon Warrior, que ça s'appelait. J'avais joué à la version américaine du jeu sur PlayStation 1, quelques années après sa sortie. Je l'avais pas fait tout de suite, parce qu'il est un peu moche, elle était sortie en même temps que Final Fantasy 9. Niveau comparaison, elle avait un peu souffert. Qui était aussi un jeu incroyable, un peu particulier parce que c'est ça que j'aime bien les Dragon Quest, c'est plus une ode au voyage justement. T'es vraiment un personnage qui, l'histoire est pas spécialement centrée sur toi, tu vas vraiment d'île en île et tu vas résoudre vraiment les problèmes de chaque village. Oh, y a l'eau qui a été empoisonnée là-bas, oh, y a tel problème, et tu vas vraiment administrer la justice d'île en île. Alors comme dans beaucoup de Dragon Quest, t'as aussi cette temporalité où tu vas dans le présent, puis tu retournes dans le passé, puis tu vas retrouver des fragments, enfin vraiment une histoire totalement dingue. Mais il faut prendre son temps, parce que c'est vraiment un jeu qui prend des centaines d'heures, rien que pour la quête principale, vraiment sans faire les quêtes annexes, et c'est vraiment un jeu qui est, je sais pas comment dire, vraiment décompressé. C'est vraiment, tu prends ton temps d'avancer, c'est vraiment, il va pas faire des ellipses, tu t'avances vraiment petit à petit, tout est là, et c'est vraiment quelque chose de super chronophage, mais c'est vraiment un voyage vraiment totalement dingue, et alors à la fin, t'as une fin, mais qui est juste, c'est pas con, c'est bien pensé, c'est bien trouvé, c'est pas un truc facile, c'est vraiment, vraiment un jeu, mais incroyable. Vraiment un de mes Dragon Quest préférés, j'ai essayé avec le 5 que j'ai refait beaucoup beaucoup plus tard en une fantrad anglaise qui était aussi assez fabuleux avec des tuiles vraiment dingues. Mais voilà, Dragon Quest, j'ai vraiment une série qui est dans mon cœur, qui est malheureusement pas très très connue. Elle est venue en Europe avec le 8,
Mais, et maintenant, il y a des jeux 3DS qui sortent, mais c'est quoi? Je comprends rien.
Il y a des remakes.
Il y a des
remasters.
Espèces de spin-offs, par exemple, où tu vas capturer les monstres, Jokers, comment ça s'appelle, Monster, Dragon Quest, Monster, Joker, quelque chose comme ça, qui est d'ailleurs un principe qui découle du 5. Et dans le 5, tu pouvais, Dragon Quest 5, c'était super novateur à l'époque, tu pouvais capturer tes monstres. Et donc, rien que de ce truc de jeu, de ce gimmick qu'il y avait dans le jeu, ils ont fait des sous-jeux qui sont sortis après sur DS. Sur 3DS, ils ont sorti le Muzo, la Beat 'em All, Dragon Quest Heroes, le premier, mais que j'ai adoré.
Il y a le 2 qui vient de sortir.
Il y a le 2 qui vient de sortir.
Je crois que le test sera la semaine prochaine.
Oui, il a fini le test.
Enfin, Dragon Quest, pour moi, c'est une série qui est vraiment très chère à mon cœur. Et j'ai joué bien longtemps après sa sortie. Et c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable.
C'est marrant parce que autant j'ai fait le 8 et que j'ai apprécié, mais j'ai jamais été attiré par les autres. C'est vraiment un univers dans lequel j'arrive pas à rentrer en fait.
Ah ouais, mais c'est ça qui est bizarre, hein, c'est que c'est très différent justement des Final Fantasy. C'est vraiment t'avances de village en village, et c'est vraiment une autre philosophie.
Le système de combat, c'est quoi?
C'est aussi du tour par tour. C'est simple, très efficace, c'est vraiment très chouette.
Et c'est toujours du. Enfin, même avec c'est le 11 qui sort là, bientôt enfin, qui
le 11 qui sort en juillet. Oh, enfin, on pourra peut-être en parler après, parce que justement, on parlera peut-être des jeux qu'on attend le plus. Mais c'est le 11 que j'attends totalement, ces deux versions. Enfin,
et c'est encore du combat en vue à la première personne ou,
pour le 11, ouais. Je pense pas, non. Enfin, il y a plusieurs versions du jeu qui vont sortir du 11. Donc, t'as la version qui va sortir sur PS4 qui, là, à mon avis, sera pas en vue première personne. Il sortira aussi sur 3DS, et sur 3DS tu pourras jouer de deux manières, en 3D avec des persos un peu comme dans le 9, et en version 2D qui a l'air totalement dingue. Donc tu peux switcher dans les églises apparemment de 3D à 2D, tu peux pendant les combats les enclencher avec un bouton pour justement avoir le combat en version là FPS, enfin vu à la première personne, ou 3D façon du 9. Le 9 aussi était excellent, Dragon Quest 9 sur DS qui était sorti, on pouvait jouer jusqu'à 4. Enfin, ils ont pondu un système de coop où tu joues en tour par tour avec tes potes à 4.
Enfin, ça marcherait jamais ici, ça.
On tourne partout. Le 9 il a bien fonctionné ici. Le 9 il est sorti en Europe. Hein.
Oui, mais est-ce qu'il a bien fonctionné? Ces gens j'ai l'impression que maintenant les joueurs attendent du temps réel, des trucs.
En tout cas, à l'époque, le 9, quand il l'avait présenté au Japon, il l'avait présenté au tout début avec des combats en temps réel. Et ils se sont fait bâcher. Ils se sont dit, ouais, non, ça va pas marcher. Un Dragon Quest, il faut pas que ça passe en combat en temps réel. Donc ils sont fait machine arrière, ils ont fait ça au tour par tour. Et ils ont incorporé ces combats en temps réel. C'est dans, comment ça s'appelle, Fantasy Life. Donc ça apparemment c'était un petit peu ce que Dragon Quest 9 était au départ. Parce que il y a un truc beaucoup plus action.
Ça a l'air bien ce jeu sur 3DS.
A l'air très sympa.
J'ai jamais essayé.
Non plus. Ouais.
J'avais vu David Mourier faire une chronique sur Noco qui parlait de ça. Il avait l'air tellement à fond, ça avait l'air vraiment rigolo.
Il ressemble aussi justement au fameux MMORPG que Level 5 devait sortir sur Xbox, comment ça s'appelait ? C'était aussi un truc Fantasy Life ou quelque chose comme
ça. Ah oui,
un MMORPG.
Exact, Fantasy Life.
En cel shading, ça ouais. Faisait, mais bavé. J'ai acheté une Xbox première du nom pour y jouer notamment.
Et
qui n'est jamais sorti.
Ils
ont, bah, le moteur graphique qu'ils ont utilisé, ils l'ont réutilisé par la suite dans Dragon Quest 8.
D'accord, ok.
Il y a un souci entre Microsoft et les jeux japonais quand même. Hein.
Oui.
Ils veulent pas, hein, c'est pas, je sais pas ce qui se passe, mais.
Et alors, quel est ton numéro 1, Saint-Yon?
Le numéro 1, c'est un peu bateau, c'est un jeu qui a vraiment révolutionné ma manière de voir le jeu vidéo, c'est Final Fantasy VII. Franchement, voilà, c'est le cœur qui parle, c'est mon premier RPG japonais. Il est sorti en 97, donc j'avais 11 ans à l'époque, et ça a vraiment changé ma perception de joueur. Je me suis dit, mais waouh, il y a des jeux comme ça qui peuvent te prendre par la main, te raconter une histoire sur laquelle tu peux jouer, mais j'ai joué des mois à ce jeu-là, je me suis dit, mais. Comment c'est possible? Ça a bouleversé ma perception du jeu, parce qu'avant ça c'était plus, on va dire, du snack gaming. Tu faisais des niveaux de Mario, tu faisais une course dans Mario Kart, tu faisais des combats dans Street Fighter. Il y a Tom Raider qui avait fait
snack gaming, c'est cool comme expression ça.
Il y avait Tom Raider qui avait un petit peu changé aussi ma perception, en me disant, ah ouais, il y a quand même une aventure, ma perception. Et puis après là il y a eu Final Fantasy VII qui est arrivé, et là j'ai fait waouh, ça peut être ça le jeu vidéo. Le jeu était tellement riche, il avait tellement des choses à proposer, et en même temps il était cohérent dans ce qu'il proposait. Tu pouvais dresser des chocobos, tu pouvais aller faire du snowboard, tu pouvais parler avec tous les PNJ dans la ville. Puis, enfin voilà, tu es dans Midgar le début, et puis après tu sors, tu dis waouh, mais il y a encore tout un truc, et après t'as encore un monde à explorer. Enfin voilà, FF7 pour moi a été un tournant dans ma vie de gamer, une claque, et vraiment je me suis rendu compte, mais c'est ça le jeu vidéo. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que je suis devenu un gamer. Et je me souviens, je me levais le matin avant l'école, parfois à 5h du mat, pour jouer une heure ou deux avant d'aller en cours. J'étais happé par ce truc, c'était vraiment une histoire, c'était tragique, c'était profond, c'était...
Moi je me souviens des copains à l'époque, ils scotchaient leurs manettes pour farmer automatiquement. Ils avaient trouvé un système où il fallait appuyer, je sais plus sur quel bouton, avec un auto-fire, et puis leur joystick qui tournait en rond, et ça faisait du coup faire les combats automatiquement à leur personnage, et quand ils revenaient le soir, ils avaient pris 10 niveaux comme ça.
Pratique.
Comme des combattants.
Donc voilà, bon. FF7, c'était voilà, une claque. Mais pour dire, voilà, j'ai quand même longtemps hésité à mettre tous les trois Final Fantasy sur PS1, parce que pour moi, ce triptyque était totalement incroyable.
Hein, c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà,
j'ai choisi 7.
Moi, j'ai failli sortir un jeu de Square Enix, mais un autre, c'était Chrono Cross, que j'ai beaucoup aimé. Ah, qui est jamais sorti, je pense, en Europe.
J'ai failli le mettre aussi. Chrono Cross, ah, peut-être, ouais.
Je sais plus.
Et Valkyrie Profile, personne ?
Non. C'était incroyable aussi.
Non. Moi, j'ai pas joué, en fait. Hein.
Ah, ok.
Moi, c'est pas ça. Non, j'aime pas. J'ai pas joué.
Parce que là, si tu veux un jeu tragique avec un sérieux système de.
Il était beau.
Tant qu'il peut. Ouais, super beau. Et puis, vachement triste.
En 2D, comme ça, vu de côté, c'était vraiment incroyable. J'ai hésité longtemps à le mettre sur, il y en a plein que j'ai hésité. Nino Kuni aussi, plus récemment, qui pour moi, là, sur PS3, toi, on en cherche
un. Eh bien, sans transition, on y va. Les jeux les plus attendus en 2017-2018, eh bien, moi, c'est Nino Kuni 2.
Ah, je sais pas, c'est ça. Le premier était chouette.
Il était fabuleux.
Mais non, chouette.
Oh, là, je m'arrêterai au chouette. Fabuleux. J'ai failli le mettre dans mon top, quoi. Tellement j'ai aimé Nino Kuni, quoi.
Je me suis beaucoup amusé dedans. C'était un peu magique, enfin, Ghibli. Hein,
c'était méga magique.
On avait ces trucs-là. Mais voilà, au terme, l'histoire était sympa, mais sans plus. Le système de combat, surtout, ça m'a un peu gavé.
Eh bien, le seul truc qui fait que je ne l'ai pas mis dans mon top, c'est justement ce côté, comme on disait, où on était absorbé par les personnages. Et les personnages étaient un petit peu en retrait, je trouve. J'étais pas dans leur team, vous voyez. J'ai regardé en tant que spectateur, mais je ne me suis pas mis à leur place. J'ai partagé plus un moment cinématographique qu'un moment d'aventure avec eux, où je me suis projeté. Et c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon top, mais par contre, quel claque. Moi, j'ai adoré ce jeu, de A à Z, quoi. Génial.
Ce qui m'a peut-être un peu déçu, c'était le manque peut-être de variété des villes. Ça, c'est un truc que j'adore dans les JRPG, c'est
des
villes.
Des quoi ?
Les villes.
Ah, des villes.
Les villages, tous les petits trucs comme ça à visiter un peu cachés. Mm-hmm. Là, il n'y en avait pas beaucoup, je pense. Il y avait peut-être un village cassé dans la forêt, et puis tu avais quelques villes, tu en avais peut-être 3-4.
Mais là, j'ai la musique de la map dans la tête qui me revient d'un coup. Les musiques étaient géniales.
Tu vois, je me rappelle que deux villes, moi, celle du désert, hein, qu'on passe beaucoup de temps, mine de rien.
Avec des chats, la ville des chats.
La ville des chats, je me rappelle pas du
première,
tout.
La toute première avec un gros chat géant.
Juste. Et une vers la fin, je pense, avec dans les montagnes, tout ça.
Après, c'était bizarrement exploité. Bon, je vais trop loin, mais il y avait dans le gameplay, il fallait prendre le bonheur de quelqu'un pour le remettre dans quelqu'un qui déprimait, par exemple. Et il y avait une espèce de routine un peu débile comme ça que je trouvais vraiment légère, mais bon, c'est pas grave, j'ai vraiment aimé.
Il paraît que le 2, par contre, est un peu moins. Enfin.
Plus sombre.
Les échos qu'on a, c'est un peu moins justement magique, un peu moins Ghibli, un peu moins.
Quand même bon film, je regarde pas de trailer avant en fait, pour pas me spoiler, donc j'ai rien regardé. Donc,
il va sortir cette année normalement.
Ouais,
on n'a pas de nouvelles, on n'a rien.
Il va sortir sur PC aussi, ça c'est nouveau, alors qu'avant c'était une exclue à PlayStation. Et il va sortir sur PC et PS4, je pense pas sur Xbox.
Non, pas prévu pour le moment, mais bon, peut-être parce que pour l'instant c'est juste au Japon. Au Japon ils annoncent. Enfin, de toute façon,
peut-être que Baven va revenir au JRPG grâce à ce jeu.
Bah justement, j'avais eu très envie d'y jouer au premier Nino Kuni, justement pour toute l'esthétique Ghibli et tout, et ça avait l'air vraiment cool. J'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, mais si le 2 sort sur PC, possible que j'essaye. Pas sûr que je le finisse, mais possible que j'essaye.
Sinon, Titix, t'attends quoi, toi, en 2017-2018 ?
Bah tu vois, en JRPG, y'a rien qui me vient en tête.
Non.
Là maintenant, non, effectivement, je sais qu'il y a Nino Kuni qui sort, et honnêtement, je vais sûrement l'acheter aussi. Mais là, comme ça...
Bon, alors,
on vient d'avoir quelques mois assez remplis, énormes.
Le FF est sorti, le Persona est sorti.
Est-ce qu'on peut dire
c'est vrai, Dragon Quest 11, il y a Dragon Quest 11 qui va sortir. Enfin,
ça serait pas ton attente, ça.
Mais en juillet au Japon, il va sortir. Voilà. En plus, je sais même pas. Enfin, je suis tellement fan que je crois que je vais le faire sur 3DS. D'abord en 2D. Et puis je le ferai
d'abord en japonais, puis je le ferai.
Et puis c'est fou parce qu'ils le vendent. Enfin, imagine, ça va être totalement dingue. Ils vont le sortir au Japon. T'as un bundle où t'as la version 3DS
et
la version PS4 dans le bundle.
Et
mais alors, ce que je suis en train de.
Mais t'as un cross save ?
Non, c'est la même histoire, le même jeu. Mais voilà, sur 3DS, tu le fais soit en 3D, soit en 2D. Et sur PS4, c'est avec l'Unreal Engine 4, donc c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus abouti. Mais c'est la même histoire, le même truc. Mais voilà, c'est juste pour le plaisir de le faire en 2D façon old school. Et puis de le faire en 3D.
Est-ce que ce bundle sera réservé au Japon ou le même sortira en Europe ?
Pour l'instant, le jeu, il n'y a même pas encore de sortie. Il y a de sortie en Europe. Et je pense que ça va être le bundle, ça va être très compliqué. Ça va être pour la traduction, je pense. Parce que Nintendo, niveau traduction, ils sont toujours un peu à cheval là-dessus. Donc est-ce qu'ils vont traduire le jeu ? Tu vois, parce que c'est le même sur PS4, donc je pense que ce sera les mêmes dialogues. Comment ça va fonctionner ? On aura deux traductions différentes.
J'ai une question hors sujet pour toi. quand on était petit, tu te souviens de Fly, un dessin animé?
Oui, bien sûr, Dragon Est-ce Quest. Que... Oui.
Mais c'est donc c'est Dragon
c'est
Quest.
Dragon Quest.
C'est Dragon Quest. Dragon Quest. Ouais. Parce que d'un coup, j'ai une image qui me revient de ce petit bonhomme avec
c'est
le
Dragon
slime.
Quest. Dragon Quest.
C'est Dragon Quest en fait.
Ça s'appelle Dragon Quest au Japon.
Oui.
Ah putain, ok.
Enfin,
mais c'est pas tiré d'un jeu, c'est une histoire vous venez de Dragon Quest.
Ah, j'aimerais bien revoir la série, savoir si ça a vieilli ou si c'était cool.
Ils ont sorti il y a pas longtemps le manga, il y a quelques années chez je sais plus quel éditeur.
C'était cool
tout
comme série. Hein.
Le
c'était
dessin
cool,
animé
trop,
par contre, il a été très vite stoppé chez nous. En français, t'as les 6 premiers tomes peut-être traduits en.
C'était Bernard Minet qui chantait le générique, c'était horrible.
Mais ouais, Fly, voilà, c'est Dragon Quest. Et tout ça pour dire que ouais, je sais pas, enfin il n'y a pas encore de date de sortie en Europe. Ouais.
D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, sur secondemain.be, le micro de Bernard Minet de la dernière, de la dernière fête de la saucisse est en vente. Donc...
Wow. C'est cool. Tu vas peut-être pouvoir le cloner sur son ADN de crachat dessus. Ce serait juste la classe. Et donc, je sais pas, mais alors, ce que j'attends aussi pour revenir à Dragon Quest 11, c'est qu'on ne sait encore rien pour l'instant de la version Switch. Et là, je me demande, est-ce qu'ils feront pas, genre, toi, la méga édition ultime où t'aurais. La version Switch, la version genre PS4, un peu moins jolie, et que tu pourrais switcher à n'importe quel moment sur la version 3DS 2D, tu vois.
Ça serait cool.
Parce que ce serait logique, t'as la version portable, la Switch, et t'as la version console de salon. Donc il ferait peut-être un truc un peu fifou comme ça, où t'aurais
faut dire
les
que
deux versions en un.
À la base, la Switch, t'as aussi c'est aussi portable. Donc,
bah oui, justement, donc toi, ça qui fera la version 3DS pour quand tu joues en mode portable, et la version salon, t'aurais la version PS4.
Est-ce que, enfin, c'est une question conne, mais j'ai pas la Switch, mais toi, tu vas peut-être pouvoir me le dire. Est-ce que la Switch peut faire tourner le jeu comme la PS4 le ferait?
Non, non, non.
Bah, regarde, Dragon Quest 2 va sortir, Dragon Quest Heroes va sortir sur Switch. Donc il faudra voir à ce moment-là. Mais apparemment.
Parce que Heroes, il est beau, hein, n'empêche.
Bah, il va sortir sur Switch. Je serais très curieux.
Non, non, la Switch, c'est un petit microprocesseur de Nvidia.
C'est de la tablette. Hein.
Et c'est clairement des processeurs qui sont, je dirais, à vue de nez 30% moins puissants qu'une PS4.
Alors est-ce que la version Switch ne serait pas la 3DS un peu plus belle? La version 3DS
sera,
plus belle.
Non, beaucoup plus belle. Que, à mon avis, 3DS, on parle d'un processeur qui fait. C'est un Pentium 90.
Mais alors, il y aurait 3 jeux, quoi, clairement.
Il y aura 3 jeux graphiquement, mais c'est le même jeu.
Non, à mon avis, ce sera quasiment la même que sur la PS4. Non, parce qu'ils disent justement sur Switch pour l'instant.
Je pense que ce sera quasiment le même.
Qu'ils ont une vingtaine de jeux qui est en préparation qui tournent sur Unreal Engine 4. Donc toi c'est un moteur graphique qui est quand même un peu adapté, donc
ouais, c'est clair.
Je pense que s'il tourne sur des PC assez modestes, donc ça devrait tourner. Bon, évidemment, ce serait comme si tu mettais la version PS4, elle sera en ultra, et la version
c'est
en middle, quoi.
C'est con, mais je revois le Zelda sur Switch, c'est pas fou, quoi. Donc
non, ça
c'est
dégueulasse, c'est clair.
Bon. C'est vide, c'est vide, j'ai pu voir du Dragon Quest 11, c'est plutôt assez fourni comme visuellement comme jeu.
J'ai pas revu après les patchs si maintenant le framerate il est stable.
Il a été corrigé, il y a eu un patch 1. Là ils sont en 1.2 je pense, et le patch juste d'avant a amélioré le framerate notamment.
J'avais lu sur un excellent site, c'est un Pixel Barbecue.
Notamment la forêt, je sais plus quelle forêt où ça rame assez bien,
c'est ça. Ok, ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
Et voilà, Dragon Quest 11, je sais pas quand il sort, mais collector direct.
Bon, ben, et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous donner un petit peu vos bons plans, votre top. Vous aimez les JRPG? Vous aimiez les JRPG? Vous attendez les JRPG? Ou c'est plutôt plus du tout votre tasse de thé?
Que de belles rimes.
Il est temps de faire parler l'homme du silence, qui rigole à côté de nous, qui nous fait les cornes quand on parle JRPG, c'est Bavenur avec sa rubrique en 2-2. Je te laisse le micro, cher ami, c'est à toi.
Salut les pipous, c'est Bavenur. En digérant le débat de mes trois compères autour du JRPG, auquel je ne connais pour ainsi dire Walou, je me suis rappelé le sujet de cette nouvelle mouture de en 2-2. C'est donc la mine réjouie que je m'en vais vous causer de Fruits of a Feather et vous offrir une pause salutaire avant le second sujet qui ne manquera pas de déchaîner les enfers. Fruits of a Feather, c'est un petit jeu indé sorti de l'escarcelle de Samurai Punk, un studio indé australien. Le Quatuor est surtout connu pour l'excellent screen sheet, qu'il qualifie judicieusement de « jeu de tir à la deuxième personne », puisque tous les joueurs sont invisibles et qu'il faut regarder l'écran de ses adversaires pour deviner leur position. Rassurez-vous, Fruits of a Feather ne nous demande qu'une chose, que l'on se laisse porter par l'oiseau que l'on incarne. Car même si l'île autour de laquelle on virevolte, faite de gros polygones et parsemée d'un peu moins de 200 fruits à récolter, il faut bien avouer que la liberté offerte par le titre nous en écarte bien vite. Directement lancé entre les arbres, le sentiment grisant de la vitesse et de la glisse aérienne nous envoûte pour mieux nous faire tournoyer autour du relief de l'île. Fruits of a Feather réussit à nous charmer en une poignée de secondes. Le soin apporté à sa 3D, son gameplay intuitif que ce soit au pad ou au combo clavier-souris, et surtout les compositions sublimes de Mitchell Passmans, suffisent amplement à transformer nos minutes de vol en un rêve éveillé. Disponible aux environs de 0€ sur itch.io, Fruits of a Feather est fait pour ceux qui sortent d'une run de Nuclear Throne frustrante ou d'un énième triple A décevant, car ces 12 plumes sauront réconforter le plus aigri des joueurs. A très bientôt pour un nouvel épisode dans 2-2.
Bien, partie numéro 2, partie clash, partie qui fâche, les tests Day One. On n'est pas tous d'accord dans la rédaction, et c'est plus un sujet, on va dire, entre nous, mais qu'on voulait vous faire partager, puisque Pixel Barbecue n'étant pas le site de référence mondial francophone des tests, et on se demandait, est-ce qu'il est bon de sortir un test le jour le jour de la sortie du jeu, voire même avant, ou est-ce qu'il serait meilleur pour vous, comme pour nous, de sortir le jeu avec un délai supplémentaire pour qu'on puisse peut-être faire des choses plus complètes ou pas, parce que c'est pas forcément le cas de sortir après et que c'est plus complet. Mais tout ça, on va en débattre ensemble, et on est vraiment pas tous d'accord. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'on en a pas parlé avant, donc du coup ça va clasher en live. Donc la pertinence de publier des tests avant ou le jour de sortie d'un jeu, on commence par Baven, à toi.
Alors, publier un test avant ou le jour de la sortie du jeu, moi je suis pas trop d'accord, mais après c'est une position que je défends plus globalement sur la façon dont on fait un test, mais je comprends la volonté de le faire pour les triple A, les trucs super attendus et que les joueurs attendent vraiment depuis des années, où tu te dis l'attente est tellement grande que la déception peut l'être aussi, donc du coup tu vas avoir besoin de te référer à quelqu'un en qui t'as confiance pour savoir si tu l'achètes ou pas. Ça, je peux le comprendre. Après, moi je suis pas d'accord, après c'est un truc plus perso. Moi j'achète très peu de triple A, et en tout cas je les achète pas le jour où ils sortent, à part les GTA, mais je suis pas très objectif.
Un GTA 6.
Ouais. Mais du coup, moi je défends plutôt une position, pas forcément de test, mais de critique, où là, je pense que prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut dire, c'est important, mais c'est quelque chose qui vient aussi du fait de ma pratique, à moi du jeu. Comme je le disais, je joue très peu au AAA, et donc j'ai plus une pratique du jeu indé, et en fait... Quand je joue à un jeu, je pense pas directement à ce que je vais dire du jeu, je vais plutôt y réfléchir après y avoir joué. Et en fait, c'est en m'intéressant au jeu et à l'histoire de comment ça a été fait et l'histoire de son créateur que je vais trouver ce que j'ai envie de dire, en relation évidemment avec ce que le jeu m'a fait ressentir. Donc du coup, c'est un truc qui prend un peu du temps parce que c'est un peu de la réflexion. Et donc moi, personnellement, de par ma pratique et de par la façon dont j'appréhende les jeux auxquels je joue, j'ai du mal à dire que je vais pouvoir sortir un test le jour même. Après, par exemple, je sais que j'ai fait la critique de Firewatch, je l'ai sorti le jour même, parce que j'ai eu le jeu un peu en avance, donc j'ai pu le faire le truc. Mais je dirais pas que je regrette un peu, mais je pense que ça aurait peut-être mérité un peu plus de réflexion, parce que j'ai fait le jeu, et puis dans la foulée j'ai écrit la critique. Peut-être que je pense que sur des jeux comme ça, je pense que ça mériterait peut-être un peu plus de réflexion. Mais voilà, en tout cas, moi, sur le truc du day one, je comprends la demande qu'il y a, mais après, je suis pas nécessairement d'accord avec le fait de le faire.
Est-ce que tu penses pas qu'on pourrait alors peut-être mettre en place une espèce de double lecture du jeu et revenir, s'obliger à revenir un mois plus tard et d'écrire 5 lignes, tu vois?
Si, je pense que ça pourrait être utile, parce que je crois que c'était Polygon qui l'avait fait, ça avait fait grand bruit à l'époque, c'était pour Bioshock Infinite, où ils avaient mis, une 9 au jeu ou un truc comme ça, enfin genre une note vraiment presque 10 je crois au jeu, et 6 mois plus tard ils l'avaient refait et ils avaient baissé la note, ils lui avaient mis 6, et bon l'exemple est très, très exagéré, mais... je pense que pour des jeux comme ça qui sont un peu, qui sont un peu emblématiques et qui marquent pas mal les joueurs, je pense que c'est intéressant d'y revenir après parce que du coup tu peux comparer vraiment, enfin à froid, et tu peux comparer à ce qui est sorti après, voir si vraiment il a eu un impact, un truc comme ça.
Mais non. Enfin, moi, je trouve que c'est ça. Enfin, revenir un mois après, ça sert à rien. Revenir, enfin, faut un laps de temps beaucoup plus long. Et pour donner directement mon avis, pour rebondir sur ce que tu dis, non, pour moi, il faut vraiment le test. Tu dois l'avoir day one, parce que t'as une espèce... Il y a une double mission pour moi quand tu parles de jeux vidéo. La première, day one, c'est plutôt, voilà, t'es là un petit peu comme un guide d'achat. Je sais bien que certains n'aiment pas ça, mais pour moi, je trouve ça très important de dire, voilà, t'es là le jour de la sortie, t'as des gens qui vont claquer 60 boules pour un jeu, et ça se trouve, il est fini à la pisse, il fonctionne pas, il y a des bugs dans tous les sens, il est injouable alors quand t'as vendu des trailers mirobolants. Donc pour moi, tu as un peu ce rôle de gardien. Tu es là, ok, non, attendez, le prenez pas maintenant. Et puis, ce que tu dis, revenir sur un jeu un peu plus tard, je suis tout à fait d'accord, mais pas quelques mois après. Il faut vraiment laisser le jeu maturer. C'est vrai pour des MMORPG ou des exemples plus flagrants. Bah, par exemple, Splatoon, au début, quand il est sorti, bah, c'était pas top, c'était un jeu un peu bof, il était pas mal, mais c'était pas ouf. Et puis, il y a quand même eu toute une espèce d'engouement qui s'est créé, toute une communauté, toutes des mises à jour qui sont faites. Alors ouais, tu y reviens un an plus tard. Je pense que la deuxième mission de revenir sur des jeux un peu plus tard, ouais, elle est importante, mais pas qu'elle faut peut-être un an, deux ans, voir comment est-ce qu'il a évolué, comment la communauté a évolué, comment les gens l'ont perçu. Et là, ouais, là, ça devient intéressant d'y revenir, parce que voilà, comme Splatoon, je pense que c'est un bon exemple, ou Drive Club. Tu vois, le jeu allait pas du tout, il y avait plein de bugs au début. Et ben, t'attends, mais plusieurs mois, ça a rien de revenir. Donc pour moi, il y a vraiment une double mission. La première, c'est le day one, parce que t'as des gens qui vont claquer 60 boules, t'as des gens qui vont l'acheter, et tu dois un peu leur donner le feu vert ou pas. Et t'as la deuxième mission, mais comme tu dis, quand t'as digéré l'œuvre, mais vraiment pas seulement toi, il faut vraiment qu'il y ait une communauté qui ait digéré l'œuvre. C'est vraiment une œuvre collective, voir un peu comment ça a vécu. Mais pour ça, il faut un recul beaucoup plus large. Et ça demande aussi de continuer à pratiquer le jeu. Parce que par exemple, Splatoon, si tu l'as pas pratiqué, bah, t'es un petit peu hors du truc, t'es pas dans la communauté, et ça demande une deuxième réflexion et un approfondissement et un temps de jeu qui est beaucoup plus conséquent.
Un investissement
beaucoup plus conséquent. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Il faut vraiment le day one, pour moi, ouais, il le faut. Et la deuxième relecture, beaucoup plus tard.
Non, je sais pas. Je me permets de prendre la parole.
Vas-y.
Mais le day one en tant que guide d'achat, comme t'en parles, je trouve que ça ne sert absolument plus à rien. Les jeux sont annoncés quoi, 2 ans à l'avance, facile. Enfin, 10 c'est certain. Donc les joueurs ont largement le temps de voir les avis, les previews, les vidéos. Enfin, non. Non, c'est peut-être trompeur sur la qualité technique.
Les previews surtout. Global. Pour essayer un jeu à la Gamescom ou des trucs comme ça, les gens, c'est tout chronométré, tout calculé.
Je crois,
ils savent ce qu'ils te montrent, tu vois.
Je crois qu'il y a encore quand même. Moi, je suis du même avis que Saint-Tillon, donc je vais vous dire pourquoi après. Je vais te laisser finir, mais simplement par rapport à ce côté gardien, tu vois ce que je viens de faire avec Siberia 3, c'est un bon exemple. Et y a des gens qui ont réagi tout de suite sur notre page Facebook en disant « Ah bah oui, bah tiens, en lisant ton test, finalement, je vais peut-être attendre avant de claquer 60 balles, quoi. » Et je crois que ça me fait plaisir, bah, déjà qu'il l'ait lu. Ça me fait pas plaisir pour l'éditeur, parce que à cause de moi, il va pas pouvoir vendre des jeux. Il y a toute une équipe derrière qui attend un peu d'argent et de rentrer dans leur retour sur investissement, mais par contre il faut le dire, et c'est clair que si on sort le test dans 3 mois et que le jeu il est toujours pas patché, et que comme tu as pu l'avoir, je t'ai mis le jeu en main il y a une heure et demie, c'est injouable, c'est pas jouable et c'est pas normal. Alors là, ce que je comprends pas non plus, c'est pourquoi il n'y a pas une lecture de la part de Sony avant de sortir un jeu. Comment tu peux sortir un jeu qui tourne à 5 images par seconde sur une PS4?
Malheureusement, ils en sont conscients, ouais. Ils le savent, hein. Ils sont pressés certainement par des par plus haut que, donc des investisseurs, bon, ce genre de choses. Ils le savent, ça ne doit pas leur faire plaisir.
Le fait est que je crois également, et je vous dirai pourquoi, je vais te laisser continuer, excuse-moi. Je voulais faire cette petite parenthèse parce que je pense que c'est important.
Ici, en fait, il me parle encore, hein, comme scintillant, de problèmes techniques, principalement. Alors oui, on est en 2017, hein, où tous les jeux, absolument sans aucune exception ou presque, sortent avec un gros patch Day One, au minimum. Alors, si on sort un test, nous, Day One, bon, on n'a pas eu ce patch, déjà.
Pas toujours.
Pas souvent, d'ailleurs, ils nous préviennent, hein, attention... tel jour, le jour de la sortie, il y aura un patch qui corrige ça, ça, ça et ça, donc il faut pouvoir aller juger sur pièce quand même. Ensuite, bah, je considère qu'on n'est pas spécialement un guide d'achat, justement.
On est quoi alors? Quelle est la mission du truc, tu vois?
La mission, bah, c'est de voir un petit peu, d'en parler et de partager, voire peut-être de faire découvrir des genres de jeux, mais pas forcément rendre un avis, enfin, c'est mon sentiment, pas forcément rendre un avis purement technique sur un jeu, à quoi ça sert en fait. Parce que les joueurs, ils ont soit déjà précommandé leur jeu depuis des mois, parce qu'on pousse à ça, à la précommande, tous les jeux sont en précommande avec des bonus, machin truc. Donc ceux qui ont envie de l'avoir Day One, ils l'ont déjà précommandé.
Alors surtout avec les collecteurs qui partent comme des petits pains, ça c'est
voilà,
vrai.
Par exemple, à 200 balles, on comprend pas. Exemple, Mirror's Edge 2, là, au collecteur de la honte, au jeu de la honte, hein, mine de rien, visiblement. Mais c'est parti, tu vois, c'est Day One quand même. Donc quelque part, t'as pas trop non plus ton mot à dire là-dessus. Ceux qui... Grâce au trailer, au machin truc comme ça, tu peux te faire ton idée globale sur le jeu avant. Si j'ai pas acheté Mass Effect Andromeda, c'est parce que j'ai vu les bandes annonces.
C'est voilà. Vrai qu'il y a eu, voilà, justement, tout un shitstorm où les gens se sont focalisés que sur un point. Pour moi, ça va pas non plus. Ça.
Mais voilà, ça, mon visage est fatigué, ça m'a fait rire, mais c'est pas ça qui, pour moi, me donne envie ou pas d'acheter un jeu. Pourtant, c'est quand même très drôle niveau gif. FF15, c'est pareil, c'est toute la communication mise en place par Square Enix ne m'a pas donné envie de prendre FF.
Tu vois, typiquement, ça, c'est un jeu, revenir un an plus tard dessus, ça peut être très bien, parce que là, il sera vraiment différent.
Mais c'est là où tu t'es demandé s'il y avait une version jeu ouais, de l'année ou quoi qui va sortir, parce que là, peut-être que ça vaudra la peine. Mais moi, refaire le jeu pour deux chapitres, je le referai jamais.
Ah bah ça, les gens en sont conscients, donc du coup, maintenant, parce que... On va encore parler d'autres choses, mais FF15, le chapitre 13 est totalement moisi, c'est de la merde, il est nul, tu comprends rien, c'est chiant. Eh ben ils l'ont patché, ils ont changé, ils ont mis des cinématiques, ils ont remis une progression un peu plus fluide. Et du coup, tu as accès directement dans le menu de démarrage maintenant. Toi, au menu de démarrage, tu peux faire recommencer le chapitre 13. Donc tu n'as pas tout retapé, mais tu peux le refaire directement.
Ah, l'aveu d'échec.
Ils ont conscience. Ah, ils en ont conscience totalement.
Et avec quel stat? Avec ta sauvegarde du moment ou...
J'ai pas essayé, mais il est dans le menu. J'ai pas essayé.
Ah, mais ça, enfin, clairement, voilà.
Il faudrait que je le réessaye, mais j'ai jamais eu le courage parce que ce chapitre m'a tellement dégoûté.
Ensuite, je trouve aussi qu'un test, une fois qu'un article est rendu, c'est un
test.
Oui, je n'aurais pas dû. C'est pour que tout le monde comprenne, voilà. Une fois qu'il est rendu, j'ai un peu l'impression que voilà, c'est fini. On ne parle plus du jeu. C'est un petit peu la conclusion du truc. Alors, ne plus parler du jeu à partir du moment où il est sorti, moi, quelque part, ça me fait un peu de peine. Hein. Je ne sais pas vous, mais on est un petit peu dans une logique où il y a tellement de jeux qui sortent qu'on en attend un. Et une fois qu'on l'a, en main, littéralement, on attend le suivant.
Ah, moi, je suis déjà hypé par l'autre, ouais.
Ouais, moi aussi, je me rends compte de ça. Et donc, si en plus, on n'en parle plus un petit peu après, tu vois, pour relancer peut-être un petit peu, pas la communication, mais c'est quand même des jeux qui ont demandé des années de boulot. La plupart sont quand même, mine de rien, qualitatifs. On va pas dire qu'ils sont tous pourris. Hein. Y a pas...
Ah bah, cette année, on a eu plein de bonnes choses.
Voilà, dans différents styles, mais ne plus en parler du tout après, merde. C'est déjà foutu à la poubelle et on attend déjà le suivant. C'est pas un pur produit de consommation. Il y a autre chose dedans.
Et tu crois que c'est en attendant genre 2-3 semaines que ton avis va être totalement différent? Je pense pas.
Non, c'est pas que l'avis sera totalement différent, mais c'est aussi pour dire que le jeu n'est pas déjà mort, quoi. Voilà.
Ouais, mais bon, ça, il y aura toujours des vidéos qui existent, puis ton article sera toujours là. Il n'aura pas disparu d'internet.
Non, mais comme tu dis, pour.
Il sera plus en avant, c'est vrai, mais.
Non, il sera plus en avant, mais ça, les gens ne s'intéresseront plus non plus. Tu vois, si toi, tu ne republies pas un truc...
Est-ce que c'est notre job d'intéresser, voilà, un peu de déterrer comme ça des...
De déterrer, non, mais de montrer que le jeu n'est pas forcément un produit de consommation. Je l'ai bouffé, c'est bon, il ne vaut plus rien, on n'en parle plus, peut-être.
Je crois malheureusement que le jeu vidéo est aujourd'hui un produit de consommation... Justement, Snack, hein, comme tu disais Snack, j'aimais bien Snack Gaming, ton expression est très cool, je trouve. Et parce que, tout simplement, l'offre est énorme. Énorme. Je sais pas ce qui va se passer dans les mois à venir, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de sorties, et je sais pas comment font les éditeurs pour vivre, et comment ils arrivent à vendre leurs jeux, parce que le gâteau est tellement grand que les parts doivent être vraiment toutes petites.
Et même les éditeurs, regarde EA qui sort Battlefield 1 et Titanfall 2 en même temps. Ouais. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui leur a passé par la tête à ce moment-là?
D'ailleurs, Titanfall 2, personne n'en a parlé. Personne n'en parle.
C'était en fin octobre de l'année dernière.
Et moi, si vous voulez, en tant que rédacteur en chef de Pixel Barbecue, je trouve important qu'on sorte les jeux le plus proche de la sortie. Voire même avant. Tout simplement parce que c'est important et on est là. J'ai l'espoir que Pixel Barbecue va augmenter et on est en train vraiment de progresser et que ça va continuer et qu'on devienne une référence en tout cas pour la Belgique. Alors si on arrive à faire ça, qu'on devienne justement un guide d'achat, c'est peut-être pas mon but parce que je trouve que guide d'achat c'est assez péjoratif parce que derrière t'as peut-être ce côté que tu es aussi acheté par les éditeurs et qu'ils te tiennent par les couilles. C'est pas le but de Pixel Barbecue, mais guide et gardien, je trouvais ton expression beaucoup mieux que par rapport à guide d'achat, parce qu'on est là pour vous conseiller et pour vous dire c'est de la merde, n'achetez pas ce jeu. Et mettre 8 à tous les jeux vidéo, bah, c'est pas notre but. On est déjà passé sur un système de notation de jeu, on n'était pas tous d'accord par rapport à ça, et ça en fait. Et je trouve que la suite, c'était logique par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on doit sortir une note et un test pour justement donner une appréciation sur la, aussi bien sur la technique que sur le scénario, que sur son avis général. Alors, donner son ressenti et avoir une pratique intellectuelle comme comme Avenir, je trouve ça également très intéressant, parce que tout simplement, nous, on a tendance à tester beaucoup de jeux. Quand je dis nous, parce que c'est vrai qu'on teste peut-être plus de gros jeux commerciaux que toi qui testent des jeux indépendants, on a tendance à tester des gros jeux qui sortent en physique. Et donc du coup, pouvoir faire le test à la sortie, c'est hyper important pour donner son avis et conseiller le joueur. Par contre, des plus petits jeux qu'on va consommer peut-être de manière différente et plus étalée sur la durée d'achat et sur la durée de vie du jeu, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas si vous me comprenez, plus étalé sur le... Si vous voulez, un triple A, où vous l'achetez Day One, où vous l'achetez 3 mois après, mais c'est rare que vous allez peut-être l'acheter vraiment très très longtemps après, parce que tout simplement aujourd'hui, le prix drop est extrêmement vite également. Mais par contre, je trouve qu'un jeu indépendant, tu peux très bien y jouer 2 ou 3 ou 4 ans après, bah tu redécouvres avec le même plaisir, parce que déjà graphiquement, et ce sont des jeux qui sont limités, il faut dire ce qu'il faut dire, et l'intérêt, il est autre, il est plus dans l'expérience, alors que le AAA, il est là pour vous en mettre plein les yeux tout de suite avec la technologie d'aujourd'hui, du jour présent. Donc, mon avis, c'est qu'il est important de sortir le jeu Day One pour conseiller le joueur. Oui, bien sûr, il y a des changements qui vont s'opérer et c'est triste parce que tout simplement, entre les aveux d'échec des FF15 et les patchs Day One qui corrigent parce que les développeurs n'ont pas été foutus, peut-être sous la pression ou peut-être parce qu'ils n'avaient pas débugué le titre assez tôt, de sortir un patch énorme à télécharger qui corrige les bugs que nous, on n'a peut-être pas eu. Mais bon. Dans 99% des cas, il faut être également, je pense, cohérent. Il faut et le jeu change très peu. Alors oui, on teste peut-être pas le mode multijoueur. C'est ce qui moi m'attriste le plus, parce que souvent on a les jeux avant qu'ils sortent, donc ou les serveurs online sont coupés ou le mode multijoueur n'existe pas encore. Donc ça c'est con. Mais par contre, le mode aventure ou les jeux d'aventure, ben, je trouve ça très intéressant et très important qu'on les sorte à temps. J'ai parlé non-stop très longtemps, je vous laisse peut-être parler après ça.
Mais en même temps, si je peux me permettre, tu vas tester. J'ai perdu le fil de ma pensée là, subitement, je t'écoutais et j'ai perdu le fil. On pourrait dire de façon de conseil général qu'acheter un jeu Day One maintenant, c'est une connerie.
C'est un quitte ou double.
Non, c'est une connerie, parce que comme tu le dis, le prix chute très vite. J'ai acheté comme ça Dishonored 2 ou Far Cry Primal à peine quelques mois après leur sortie, il valait 20 balles.
C'est vrai. Dishonored 2 qui est très sympa.
Oui, très sympa, mais 2 mois plus tard, t'as quand même déjà les patchs qui vont bien, hein, qui corrigent les gros problèmes. Ton jeu, il te coûte moins cher et il en est que meilleur. Donc de toute façon, acheter Day One, soit t'es gros fan. Et on est tous trop fans de quelque chose, n'est-ce pas? Donc moi aussi, j'achète certains jeux Day One et d'autres où je mets dans ma wishlist ou dans ma liste occasion pour 6 mois, 1 an plus tard, en me disant je les ferai, j'en ai envie, mais maintenant, voilà, ils sont pas. Ils valent pas mes 60 ou 70 balles maintenant. Parce qu'il faut quand même choisir, hein, on a quand même 3 AAA minimum par mois.
Moi, c'est que je suis faible en fait. Moi, c'est le problème. Dès qu'un jeu sort, je suis super hypé et 2 semaines après, mais j'ai même plus envie d'y jouer en fait. Donc c'est ça que j'ai vraiment envie de l'acheter, voilà, parce que je vais être dans l'immédiateté, dans à chaud. Je dis, ouais, il me le faut, j'ai trop envie d'y jouer. Et si je l'ai pas pris voilà, immédiatement pour y jouer, bah, je sais bien que, à part certains titres vraiment en Nier Automata que j'ai super envie de faire parce que j'ai adoré le premier, mais voilà, il va me passer au-dessus de la tête et je vais l'oublier, tu vois. On est tellement assailli de toutes parts par des jeux, par la communication, par des pubs, on est vraiment matraqué dans tous les sens sur les réseaux sociaux, que même Zelda Breath of the Wild que j'adore, bah j'étais à fond dessus un petit peu au début, et puis là j'ai lâché, et j'arrive plus à y revenir. Mais c'est... La hype est totalement, je sais que je suis faible, mais la hype est redescendue et voilà, j'ai oublié.
C'est pas que t'es faible, c'est qu'on suit le plan prévu par justement le matraquage marketing. C'est-à-dire qu'on a très envie du jeu lorsqu'il sort, et puis on a très envie du suivant une fois qu'on l'a.
Et d'ailleurs, je trouve que Nintendo est très malin pour ça avec la Switch, parce qu'ils ont vraiment très peu de jeux, et t'en as peut-être un gros tous les mois ou tous les deux mois, et du coup, c'est un truc très plus pérenne. J'ai l'impression que t'as envie de jouer à Zelda, puis quand tu l'as fini, bah, t'auras le Mario Kart, puis quand t'as fini, t'auras Splatoon. Tu vois, il y a une espèce de douceur, et t'avances lentement avec, j'ai l'impression.
Alors, justement, Baven, toi qui as une tendance de consommation qui est complètement différente, je pense, de la nôtre du jeu vidéo. Parce que la vraie question que je me pose, c'est comment, toi, tu découvres tes pépites, on va dire, du jeu vidéo indé, et quels sont tes modes de communication, finalement, de hype ? Est-ce que tu es hypé par un jeu qui va sortir, ou c'est parce que tu le découvres peut-être 5 ans après, et tu prends autant de temps ? Ça marche comment, finalement, pour toi ?
Juste avant, je voulais revenir sur un truc. Je trouve que il y a un jeu qui cristallise assez bien la discussion qu'on a. C'est No Man's Sky, qui est sorti l'été dernier, et enfin, il a quand même mis une hype phénoménale à tout le monde. Il y a eu je sais pas combien de dizaines de milliers de précommandes, et quand il est sorti, bon, il s'avère que techniquement c'était à la ramasse, en tout cas, enfin, sur PC et tout, et que c'était pas du tout la promesse qu'on nous avait faite. Enfin, en tout cas, la promesse qu'on nous avait faite était toute petite par rapport à ce que le jeu était vraiment.
Le problème, il est plus là, c'est que le jeu vendu n'était pas le jeu promis, c'était même pas une question de technique, c'était une question de fond, même.
Oui, voilà, c'est ça, et du coup, effectivement, on en a parlé pendant 2 semaines, parce que c'était un scandale, et tout le monde l'a oublié, et c'est assez drôle, parce que maintenant, il se fait discret, mais il y a des gros patchs qui sortent, je crois qu'il y a 2 gros patchs qui sont sortis depuis la sortie du jeu, c'est et horrible, qui, en tout cas, ajoutent plein de trucs, et personne n'en reparle, parce que c'est No Man's Sky, et que je pense qu'il y a très peu de gens... Enfin, je pense que ça fera pas revenir les joueurs déçus dessus.
De toute façon, c'est horrible, parce que tous les patchs qu'ils ajoutent éloignent de plus en plus le jeu de la promesse initiale. Parce que oui, voilà, tout ce qui est sorti, il n'a plus rien à voir. Il continue à l'abreuver en contenu pour l'améliorer, mais plus il l'améliore, et moins ça ressemble à ce qu'on t'a promis au départ.
Oui, voilà, c'est ça, et ça pose la question de... est-ce que vraiment faut en reparler, enfin, est-ce que ça mérite le coup d'en reparler, ou est-ce qu'on a déjà tout dit, enfin, c'est un peu compliqué.
Je crois que c'est un manque de temps, tout simplement. Je pense que ça mériterait la peine d'y revenir, mais c'est un manque de temps.
C'est aussi un peu dommage, parce que tous ces jeux, ben, on parle de Mass Effect et de ces annulations faciales, de No Man's Sky et de tout ce qu'il a amené, de Drive Club, qui était mauvais à la sortie, mais qui depuis est vraiment très très bien.
Très bon, hein.
Bah, on n'en parle plus, voilà, ces jeux ont été tagués comme des échecs à leur sortie, Day One, et maintenant sont très bons, et voilà, on s'en fout, plus personne n'en parle.
C'est la première impression qui compte.
Ces jeux sont vendus maintenant 10, 15, 30 balles, ouais, maximum, ils sont très bons, et personne n'en veut plus, parce qu'au jour de la sortie, ils n'étaient pas bons.
Et aussi parce qu'aujourd'hui, ben, t'as son concurrent qui a sorti un jeu qui est plus récent, qui a d'autres nouveautés, et puis c'est trop tard. Je veux dire, quand tu loupes le coche à la sortie et que 6 mois après tu sors un patch qui le corrige, mais que la même semaine, eh ben, t'as un autre éditeur qui a sorti la suite de son jeu de bagnole qui est lui directement bon, ben forcément, t'as aucun intérêt de revenir sur Drive Club.
Bah, si on prend le cas de Drive Club en particulier, il y a.
C'est vrai qu'il n'y a rien comme jeu de course sur PS4.
Bien sûr.
Il n'y a pas grand chose hein, sur PS4, il n'y a pas grand chose.
Il n'y a pas grand chose, mais il y a Project Cars, c'est comme ça.
Il y a Project Cars, ouais, c'est vrai, il y a 2-3 autres.
Mais la proposition n'est pas exactement la même non plus. Hein, sur Drive Club, c'est vraiment du multi, principalement, tout est basé là-dessus, ou presque. Ils ont mis des patchs pour les motos, machin, enfin, il y a eu quand même pas mal d'ajouts. No Man's Sky n'a pas spécialement de concurrent non plus. Il n'y a pas de proposition autre que celui-là. Siberia, on va reprendre Siberia 3, effectivement tu me l'as montré, c'était risible en termes de doublage, en termes d'animation, en termes de framerate, hein, j'ai jamais vu un jeu laguer autant pour pas grand chose, mais dans un mois il sera peut-être très bon. Bon, les doublages seront toujours pourris, mais le framerate sera peut-être tout à fait acceptable et stable, ce qui en fera peut-être un jeu très chouette en termes d'histoire et d'aventure, je n'en sais rien, avoir ta tête, non, peut-être pas. C'était peut-être le mauvais exemple, mais voilà.
Non, puis il y a des choses comme ça, tu sens qu'ils peuvent pas être corrigées. Hein. Mass Effect, il y a plein de choses qui vont pas dans la manière, les quêtes annexes sont amenées, la manière de... Donc tu sais que c'est des choses qui peuvent pas être attrapées.
Il y a des choses qui ne peuvent pas dans Mass Effect, clairement, même si l'histoire est moins en retrait.
L'histoire principale, ça va, mais t'as trop d'allers-retours.
FF15, honnêtement, je vois pas ce qu'ils peuvent rattraper dedans, à part mettre des... Enfin, de mon point de vue, encore une fois, mais c'est pas un Final Fantasy tel qu'il aurait dû naître après 10 ans.
Ouais, mais ça c'est encore particulier, parce que malheureusement, celui-là, j'ai un souvenir tout particulier, une certaine tendresse pour ce Final Fantasy XV, même s'il a ses défauts. Mais bon.
Ouais, bon, depuis le 13, le 13-2, bon, sympa, 13-3, mon dieu, et enfin, chouette, mais mon dieu, sur certains trucs.
Ouais, Kingdom Hearts, c'était nul, j'ai détesté. Enfin bref, on s'éloigne un petit peu du débat, mais...
Mais du coup, pour revenir à la question que tu m'avais posée, Berry, sur comment je me hype des jeux, sur les jeux indés. En fait, moi, je découvre surtout les jeux indés sur Twitter, donc je suis pas mal de développeurs sur Twitter. Et après, c'est tel développeur va retweeter son pote développeur qui sort un jeu, des trucs comme ça. C'est comme ça surtout que je découvre les jeux. Après, par exemple, il y a un jeu qui sort, j'y joue, je m'intéresse à son créateur, je découvre qu'il a fait 3 autres jeux avant, et puis je vais jouer à ces jeux-là. Et c'est comme ça que je découvre aussi les trucs. Mais il y a un phénomène qui est assez intéressant chez les développeurs indés, c'est que pour ceux qui sont pas chez même des tout petits éditeurs, vraiment qui sont tout seuls, ils sont obligés en fait de créer eux-mêmes l'hype. Donc en fait ils vont aller voir les gens qui vraiment s'intéressent beaucoup à leur jeu, leur communauté, et leur dire si vous avez envie que ce jeu marche, il faut que vous nous aidiez, quoi. Il faut vraiment que vous créiez la hype aussi, vous. Et je crois que c'est un peu ce qu'ils ont fait avec Normal Lost Phone. C'est qu'il y avait bon, on va pas dire que c'était confidentiel, mais parce qu'il a eu un bon succès d'estime, enfin un très bon succès en tout cas quand il est dans la version Game Jam. Et en fait, quand ils sont passés à la version commerciale, vraiment ils sont allés voir la communauté. Ils ont dit, il faut que vous nous aidiez à justement ramener des gens pour leur faire découvrir le jeu. Et je crois que ça a plutôt bien marché. Je sais que Fibre Tigre l'avait fait pour Out There. Il avait fait un gros travail justement de communication et de ramener des gens autour du jeu et de le faire connaître le plus possible. Et du coup, il y a cette espèce de enfin, c'est plein de petits épiphénomènes, la hype autour des jeux indés. Enfin. Moi, de mon côté, si je regarde mon fil Twitter, j'ai l'impression que c'est des trucs que tout le monde connaît. Mais en fait, c'est juste vraiment des petits noyaux de gens qui sont hyper hypés par le jeu et qui vont vraiment faire la promo du truc.
Pour te dire, dans tous les trucs que tu as cités, j'en connaissais que un. mais justement, t'as pas envie de défendre ces gens, de les aider. T'as pas, au moment où ils sortent leur jeu sur Steam, t'as pas envie de sortir ton test et de dire « Putain, il est génial, achetez-le, quoi ».
Oui et non, parce que c'est une question délicate. Si j'ai envie de les supporter et j'ai envie que ma position, on va dire, de curateur les aide, enfin les en tout cas fasse connaître leur jeu à une échelle plus ou moins grande, mais j'ai l'impression de mieux les servir si je prends mon temps et que je fais un truc j'ai aussi envie de faire un truc qui me ressemble dans ce que j'écris, donc je préfère prendre un peu mon temps de ce côté-là. J'ai l'impression de mieux les servir de cette manière-là, en tout cas.
Parce que je pense en tout cas que le succès d'un jeu, c'est clairement les ventes des One. Dans l'histoire du jeu vidéo, j'essaie de réfléchir. Je cherche un jeu qui s'est plus vendu, genre un an après sa sortie, je vois pas. Je sais pas si vous, ça vous dit quelque chose.
Il y a des jeux peut-être comme Mirror's Edge ou Nier qui sont des jeux qui étaient mal vendus au départ.
Nier, c'est vrai qu'il va être réédité sur PS3, sur PS3 par Square Enix, tu vois.
Mais on va dire que c'est plutôt rare quand même.
C'est rare.
Plutôt rare. Donc je crois que le succès d'un jeu, c'est clairement son Day One, qu'on y joue ou pas.
C'est triste en fait, je trouve.
C'est très triste.
C'est vraiment triste.
Mais bien sûr, mais
c'est triste, mais même, mais les éditeurs passent à autre chose après, c'est le problème. Toi, c'est très rare, les trucs comme on parlait, No Man's Sky, Drive Club, c'est super rare que des gens attribuent encore des ressources budgétaires pour dire ok les gars, bon, on va essayer de faire ce qu'on peut pour réanimer un jeu mort-né.
Mais c'est là où on dit que si un titre est bon et mérite qu'on s'y attarde un peu, autant en reparler un peu après, tu vois. C'est pas...
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Là,
même nous, on reçoit aucun communiqué de presse pour un jeu
No Man's Sky, j'ai dû gratter, aller voir sur leur site pour voir ok c'est quoi les gars votre mise à jour, qu'est-ce qui se passe.
Sony les a complètement abandonnés, je veux dire, ils les ont mis sous les projecteurs en disant voilà, grâce à nous, Sony, regardez ce qu'ils vont faire, c'est de la folie, vous allez aller voyager dans le monde
d'ailleurs,
entier.
D'ailleurs, ça leur a desservi totalement.
Et Sony s'est dit oh là là, mais merde, c'est de la grosse merde, allez hop.
Non, ça s'est passé autrement. C'est Sony qui les a poussés. Sony qui dit hey les gars, allez présenter vos
trucs. Oui, je sais bien, mais justement, une fois qu'ils ont sorti leur jeu et qu'ils se sont aperçus, Sony, que tout le monde critiquait, Sony les a pas du tout aidés. Ils les ont juste foutus dans une merde totale et monumentale, et c'est triste.
Oui, ils voulaient juste faire leur petit jeu tranquillement de leur côté, et ils ont été dépassés.
Donc c'est pour ça qu'en tant que site d'actualité vidéoludique, alors c'est très bien, moi je suis le premier à vous dire que j'adore le rétro gaming et redécouvrir des jeux, mais j'en parle peut-être pas forcément sur Pixel Barbecue à tort et peut-être à cause du temps, parce que je me dois en premier de parler des jeux qui sortent.
Mais d'un côté, il y a une différence entre parler des jeux qui sortent et... Je vais faire un parallèle avec un critique de cuisine, mettons, qui va sur un buffet, qui bouffe, et qui à chaque fois qu'il a bouffé un truc, il sort un papier, puis il rebouffe encore après, puis... Non, attends, on n'est pas dans la boulimie ici.
Mais on est obligé, encore une fois, parce que...
Obligé, non ?
Bah, moi, je trouve, par rapport aux éditeurs, le fait qu'ils viennent vers nous, qu'ils soient petits ou grands, en disant « Voilà, on a un code pour notre jeu qui sort dans une semaine, est-ce que vous pouvez faire le test ?» Moi, je me mets dans la position, justement, où t'as envie de dire « Ouais, moi, Siberia, j'étais super hypé, on parle que de Siberia aujourd'hui, j'étais super hypé, et je me suis dit « Ok, génial, ils viennent vers nous pour nous proposer le test, alors que j'allais acheter le jeu, en plus, le même jour. » Parce que j'avais pas pensé à demander le jeu pour faire une review, et c'est intéressant de les défendre et d'essayer de voir ce qui se passe. Alors j'ai essayé de les défendre comme j'ai pu, parce que il y a clairement une âme dans leur jeu, mais c'est de la grosse merde.
Enfin, je pense que les éditeurs, moi je m'en fous totalement, hein. C'est plutôt par rapport au public, par rapport aux Français, je pense. Je me revois étudiant, j'avais pas beaucoup de sous, et vouloir acheter tel et tel jeu, avec vraiment un pouvoir d'achat très faible, justement. J'ai ce souvenir là qu'il faut vraiment lire un truc et faire ok, bah j'ai 50 euros à dépenser pour les 3 prochains mois ou les 4 prochains mois. Il me faut vraiment que je sois sûr de ce que je vais acheter, tu vois, parce qu'à l'époque, c'est vrai que YouTube était moins développé, tout ça, mais tu te dis, ok, je veux vraiment être certain que je vais en avoir pour mon argent, que je vais pas être déçu et pas pleurer après
moi. Moi, je pense bien sûr aux gens, et on est là pour ça, je mets pas une note pour noter l'éditeur, je mets une note pour noter le jeu pour les gens. Mais par contre, ce que j'aime dans le jeu vidéo, c'est les gens qui travaillent derrière. Et quand j'écris des tests, je parle toujours du compositeur, du metteur en scène, du réalisateur. Ou du directeur artistique, parce que ce sont des gens derrière, et pour moi c'est hyper important d'en parler et puis de les mettre en avant.
Mais justement, pardon je te coupe, mais sortir un article comme ça le jour de la sortie, primo il va être noyé parce que tout le monde va le sortir à ce moment là et je pense que les personnes qui travaillent sur le jeu sont bien contentes qu'on en reparle un petit peu après, justement.
Il y a aussi une question de moteur de recherche. Je veux dire, les gens vont taper test Siberia maintenant parce que le jeu sort. Dans 6 mois, plus personne tapera ça et personne ne trouvera ton article.
Donc... D'où je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'avoir cette double lecture, comme je disais, revenir après pour avoir une espèce de suivi. Ça, je pense qu'effectivement, c'est important comme mission, mais un an après.
Tu vois, ce qui est possible de faire aussi, et on a la technique pour le faire, parce que... J'ai pris le pli de frais aussi. Maintenant, c'est de sortir peut-être un stream du début de partie pour montrer justement comment se comporte le jeu, bêtement. Pas forcément commenter ou rien du tout, mais voilà, le jeu c'est ça. Il sort comme ça, c'est pas un trailer, c'est le début de partie. Le jeu il sortira comme ça maintenant. Donc là, si t'avais fait un stream au jour de la date de sortie de Siberia, pour moi ça suffit pour montrer les problèmes techniques. Mais pour revenir ensuite sur le jeu en lui-même, ses compositions, sa mise en scène, son histoire, ça demande plus de temps, en fait.
Ah oui, c'est clair.
Simplement, on va reprendre ici, on va encore reparler de Persona 5. J'écris, hein, tu l'as lu, mais au plus je joue au jeu, au plus je me dis, merde, il y a encore ça en plus derrière, il y a encore ça en plus.
Ça, c'est un gars extrême aussi.
Là, je suis au quatrième palace, il remet les 3 premiers en question en termes de thème et de scénario. C'est pas du tout la même chose que les 3 qu'on vient de faire. Alors, je me dis, merde, le jeu il fait quand même plus de 80 heures, je m'arrête quand pour écrire un truc? J'ai été correct dans le test, j'ai dit que je l'avais pas fini, mais que en termes de mécanique c'était acquis, mais en fait non. Donc je l'ai pas encore mis parce que c'est trop long, c'est trop...
Non, mais ça c'est un cas extrême, mais aussi des jeux où tu peux le sentir directement. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué. Mass Effect, finalement, j'aurais pu écrire mon test beaucoup plus tôt parce que c'est tout le temps la même mécanique, c'est tout le temps la même redondance, c'est tout le temps les mêmes problèmes qui reviennent.
Mais tu aurais pu avoir un sursaut scénaristique aussi.
Vois, plus j'ai l'impression que plus je fais de tests, plus j'écris, plus t'as quand même une certaine. On va dire, t'acquiers une expérience et tu dis, ok, ça je le sens, ils pourront pas. À part hors surprise énorme comme Persona 5, mais une fois que t'as compris certaines mécaniques, parfois tu fais, ok, ça va, j'ai compris le truc,
ou pas.
Je vois que ça va ou que ça va.
Un jeu rare. Comme Nier Automata, si tu t'arrêtes à ta première partie, la première fois que le générique défile, bah, t'as rien vu du jeu.
Ça,
donc.
Tu sais peut-être pas, mais c'est, voilà, avec les premiers Nier, bah, tu sais que c'est quand même le. Voilà,
personne l'a fait, le premier Nier, c'est un succès. Enfin, le jeu, c'est pas vendu, donc en gros, tout le monde l'adore, mais personne ne sait vraiment pourquoi, parce qu'il y a tellement peu de gens qui y ont joué que.
Bah, quand t'étais sort, je pense que c'est quand même un truc que tu sais, non enfin... J'en sais rien, mais quand tu testes un Nier, tu te dis quand même, mais quelqu'un au moins qui a fait le premier sur le coup.
Moi, j'avoue que pour le coup, c'est pour la sortie du 2 que j'ai appris qu'il fallait faire plusieurs runs pour découvrir vraiment tout le truc. Enfin, après, j'ai pas fait le premier, donc. Mais okay. C'est vraiment à la sortie du 2, enfin de Automata, que j'ai découvert que, ah bon, faut faire plusieurs runs pour avoir tout le truc. Enfin, je trouve que c'est un concept intéressant.
Nier à ce moment-là. Pardon, vas-y.
Bah, à ce moment-là, je veux dire, où est-ce que tu mets la barrière de dire, ok, j'ai torché le truc, un jeu, je sais pas, essentiellement multi, un Call of, un Battlefield, un Overwatch, quand est-ce que tu peux dire que t'as compris, que t'as fait le tour, tu vois, à ce moment-là.
Mais surtout que ça, c'est des jeux qui sont sujets après à patch, genre des trucs d'équilibrage et tout, donc là, c'est vraiment délicat pour le multijoueur.
Tu vois, un jeu comme Nier Automata, objectivement, il est pas très beau, il est pas très fluide.
Oh, il est pas fluide.
Pas toujours sur PS4, non. Pas toujours très très lisible. Hein. Je me rappelle de combats de boss dans des tempêtes de sable grise. Tu vois que dalle, mais je veux dire, tu mets le machin automatique pour l'esquive parce que sinon c'est pas possible, tu ne vois rien. Mais si tu t'arrêtes à ça, bah voilà, t'as fait le truc. Le jeu est pas top, honnêtement. Son histoire est bizarre. Ses personnages sont pas très beaux. Comment dire, c'est pas un vrai monde ouvert. Hein. C'est 5 zones séparées par des couloirs. Voilà, est-ce qu'on s'arrête à ça? Ou est-ce qu'on prend le temps justement de voir plus loin, de run, 3 runs, faire 3 fins en plus derrière pour voir vraiment ce que les gens voulaient dire.
Ouais, je suis d'accord, mais ça c'est plus une contrainte de temps pour moi. Voilà, il faut le faire, il faut aller au bout des choses, en tout cas le sentir que tu, dans tes tripes que tu fais, ok j'ai vu, je peux rendre un avis en âme et conscience. Ou voilà, mais ça c'est une contrainte de temps.
Une contrainte de temps, et derrière bah, soit on reçoit les jeux, soit les jours de la sortie.
Et ça c'est,
ça, c'est très con. Soit on les reçoit à l'avance mais soumis à patch.
Mais je crois qu'il y a aussi ton ressenti. Moi par exemple, il y a des jeux où, que je ne finis pas pour rendre mon test. Il y a des jeux que je finis pour rendre mon test. Et il y a des jeux où je le sens pas de rendre mon test maintenant. Donc je prends encore une semaine de plus pour rendre mon test. Donc quand tu restes, on va dire, dans la dizaine de jours après la sortie du jeu, ça reste cohérent. La hype est toujours là généralement. Après, c'est plus compliqué. Mais par exemple, si derrière 3, l'éditeur me dit hey, je t'ai envoyé le code il y a 10 jours, tu ne lui as pas rendu ton jeu. Je dis bah non, ton jeu il est long et je voudrais bien quand même savoir où est-ce que je vais. Quoi. Et j'ai toujours été droit dans le mur, donc j'ai arrêté. Au bout d'un moment, j'ai pas fini le jeu pour rendre mon test, mais je vais finir le jeu quand même. Il me reste, je pense, rien en plus de 2-3 heures de jeu.
Attends, parce qu'on a relancé une partie, il faut voir si t'as sauvegardé pas.
Et oui, et ça, je serais dégoûté, parce que là, j'arrêterais complètement, par contre.
Désinstallé.
Oui. Mais bon, voilà, je crois qu'il y a aussi une responsabilité de la part du testeur de dire, ok, là, je pense qu'il faut que je prenne 2 jours de plus, ou 3 jours de plus, ou une semaine en plus, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, je veux dire. Ou peut-être que je vais découvrir autre chose, mais bon, quand tu vois que t'as fait le tour du jeu, moi j'ai fait Snake Pass là, que j'ai détesté. Alors il y a eu une hype énorme autour de ce jeu, j'ai regardé plein de lives de plein de gens qui sont à fond dedans. Putain, moi j'ai joué, je me suis fait chier comme un rat mort, j'aime pas la physique, j'aime pas les graphismes, j'aime pas la musique, j'aime rien du tout. Et bien j'ai joué 2 heures au jeu. Allez, peut-être 3, et j'ai arrêté.
Il n'y a pas besoin de plus pour tester, voilà. C'est quand même toujours la même chose. Donc
Exactement, ouais. Et je crois qu'il y a une part de la responsabilité du testeur de dire, ok, là, j'arrête parce que c'est pas bon, ou je continue parce que je sens qu'il y a quelque chose, et peut-être que j'ai tort ou pas. Et...
Parce que mine de rien, ce que les joueurs ne savent peut-être pas, c'est que les testeurs ont aussi des contraintes, hein, soit les patchs qui suppriment les sauvegardes, hein, on est prévenu en recevant le jeu, attention... tel jour, bah, votre sauvegarde elle sera pétée avant la sortie. Ouais, super, merci. Donc il faut tout recommencer pour voir si les patchs tiennent. On a les NDA, hein, donc les accords
agreement.
Voilà, les accords qui nous imposent de ne pas parler du jeu avant une telle date, telle heure, ils sont parfois...
Il ne faut pas divulguer tel élément scénaristique, ça arrive souvent.
Photos,
ça.
Ouais.
Donc il faut quand même aussi qu'on fasse avec ça, mine de rien. Donc on ne peut même pas en parler avant un certain moment. On a les jeux, là c'est plus un problème console qui nous empêche tout stream ou toute capture... d'éventuels problèmes ou de jouets de passage ou des trucs comme ça, je pense à Persona 5, on sait rien faire.
Tales of aussi, ça c'est
Tales of, on sait rien faire non plus, ils mettent leur scénario au premier plan, alors que Tales of, bon, il y a peut-être pas non plus.
Non, je sais pas, je comprends pas l'intérêt de ce genre.
Non,
de,
même
de,
sur
de,
Persona, de, je vois pas le jeu. Voilà.
De censure.
L'intérêt est ailleurs, mais bon, ouais, ils sont là-dedans. C'est quand même pas mal d'épines dans le pied parfois qu'il faut essayer de contourner. Et voilà, tout ça aussi prend un peu de temps, alors c'est quand même dommage qu'on puisse pas. Soit disposer des jeux 3 semaines à l'avance facile pour sortir quelque chose de plus de complet à la sortie du jeu même, ou alors de proposer directement de sortir un test plus tard mais avec d'autres éléments dedans, une petite analyse ou un truc comme ça, un truc plus complémentaire qu'un bête test technique.
Ouais, je crois qu'on est d'accord de ne pas être d'accord sur ce point.
Bien, ça fait 1h25 que vous nous écoutez. On vous remercie beaucoup.
Si vous êtes toujours là, d'ailleurs.
On a fait pire.
Alors, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous êtes toujours là.
Exactement.
On fera un sondage à la fin pour voir
si
qui était
là. Si vous êtes toujours vivant et si vous voulez qu'on teste pour vous le jour même, ou si vous préférez qu'on prenne notre temps et qu'on attende des mises à jour éventuelles pour que ce soit plus complet, donc du coup vous n'ayez qu'un avis
c'est vrai, qu'est-ce que vous
tardif.
Préférez.
Oui, dites-nous tout. C'était les podcasts. On est avec Saint-Yan.
Yo.
Pavel.
Yo.
Titix.
Hi.
Et on vous dit merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On vous dit à bientôt pour l'épisode numéro 5. Restez connectés pour la date parce que même nous, on la connaît pas encore. À bientôt tout le monde. Ciao.
Des bisous.
Ça a été un tel bordel pour mettre
cette date
d'ailleurs.
J'ai quoi ?
Non, je dis ça a été un tel bordel pour se voir aujourd'hui déjà d'ailleurs.